Bon midi. Bienvenue à l'émission On en jase. Il est midi, une minute. 418-971-1021, le numéro pour nous joindre en studio par texto. On adore avoir vos réactions. Également, n'oubliez pas, blvd.fm, c'est notre web radio pour nous écouter. BLVD 101, c'est l'application. Téléchargez-la, elle est gratuite sur App Store et Google Play Store. Et aussi, si vous avez un haut-parleur intelligent à proximité, vous dites « Écoutez BLVD 101 » et on apparaît dans vos oreilles. Évidemment, aujourd'hui, on va revenir sur cette problématique du racisme au Québec, un graffiti aujourd'hui. Puis c'est pas le premier là, dans la ville de Québec. Il y en avait eu sur la promenade Samuel de Champlain. « Maudits musulmans, vous allez retourner chez vous, décalissez » qui est écrit. Wesh! J'ai honte à ma ville quand ça arrive. On va en parler. On va parler également de cette loi 101 qui s'élargit auprès des municipalités. Puis là, bon, on parle des deux côtés de la bouche encore, du côté du gouvernement. Hey, on va réduire votre administration et municipalité, mais patauk! On leur met des bâtons dans les roues qui font en sorte qu'ils vont être obligés d'engager plus de monde. Donc, on va jaser de ça. Travaux du tramway, l'annonce d'aujourd'hui. 15 heures qu'on attend avec impatience. Mark Carney, Christine Fréchette, à Longueuil. Ça me fâche-tu que ça soit à Longueuil, que ça soit pas dans notre capitale nationale? Hey, on a une loi de la capitale nationale, Antonine!
Ouais. Fâché!
Fâche-toi! J'espère donc! Salut Carl qui nous dit « Hey, bon midi! T'es en train de décharger mon troc à Moncton! » Fait que vous voyez, Charles, l'application.
Ben oui, Carl, parce que ça sera en Moncton.
Exactement. Et il nous écoute en direct de Moncton. Et en fin d'émission, ben, on va parler avec Alex Laramé. Finale de la Coupe Stanley, ça vous intéresse-tu? Allez-vous l'écouter? 418-971-101. Moi, je suis un gros fan de hockey. Vegas, Caroline, ça va être du hockey rapide. Ça va être du hockey inspirant. Et que je vais être devant l'écran à 8 heures ce soir.
Mais au Québec, on se dit beaucoup fan de hockey, mais la majorité, c'est fan du Canadien.
Ben oui, oui.
Pour de vrai, puis on le voit en série.
J'ai rien contre ça, là.
Puis c'est vraiment correct, mais on le voit en série. TVA Sport, quand le Canadien faisait pas des séries, c'était des années très difficiles parce que les codes d'écoute en série, c'était un désastre.
Exactement.
Fait que j'ai hâte de voir si TVA Sport va quand même maintenir des codes d'écoute qui ont de l'allure. Surtout Vegas, Caroline, c'est pas nécessairement les deux équipes qui sont de plus s'adopter au Québec. C'est pas une finale si spéciale que ça non plus.
Puis la météo, est-ce que ça peut jouer? Parce que écouter du bon hockey l'hiver chez vous, quand il fait noir à 16h, c'est tel que tel. Mais quand il fait beau puis que tu pourrais être sur une terrasse, mettons.
Ben juste moi, à soir, je me suis dit « OK, il faut que j'écoute la finale de la Coupe Stanley. » Mais je me suis rappelé du même souffle qu'hier. J'étais sur mon patio à 8h le soir, en train de profiter de peut-être une première soirée estivale. J'étais bien, je faisais le tour de mes petites nouvelles. Je pense que je restais là jusqu'à 9h15 tellement j'étais bien. Alors, c'est sûr que ce soir, va falloir que je me dise « Pas de patio, là, OK! »
Ben, c'est ça.
Ben, si, c'est... Si,
mais c'est une passion!
Mais en même temps, Jeff, si tu veux rester sur ton patio, tu vas rester sur ton patio.
Puis je vais sortir ma TV sur le patio comme je faisais à l'époque de mon jumelé.
Idée,
on faisait ça. On sortait deux TV, moi puis mes gars. Une, on mettait le sport. L'autre, on jouait au PlayStation. On était sur le patio avec le petit feu à côté. C'était correct.
Mais ça me rappelle pendant la pandémie, justement, quand les Canadiens s'étaient rendus assez loin.
Oui.
Il faisait beau. Les gens s'installaient des petits setups extérieurs. Ils faisaient du outdooring.
Exactement. Jennifer qui nous dit, je vais écouter ça du coin de l'œil. Je suis en train de faire des boîtes pour mon déménagement à la finale de la Coupe Stanley. Faut pas le dire, mais moi, pendant la pandémie, là,
tu trichais-tu?
On sortait une TV dans ma cour. Grosse TV, même on sortait un écran géant avec un projecteur. Puis on mettait les matchs des Raptors parce qu'on était des gros fans du We the North, les Raptors.
Ouais.
Puis là, on était peut-être une vingtaine dans ma cour. C'était trop.
20, c'est beaucoup.
On était trop.
Vous avez des bons voisins parce qu'il aurait pu vous dénoncer à la Gestapo.
Inquiète-toi pas que...
T'étais un délinquant, Jeff.
Ouais, inquiète-toi pas que tout le voisinage se parlait. À 4h30, on faisait un rassemblement dans la rue. Mais on était chacun assis.
C'est dehors.
Ben, c'est ça, on était chacun assis dans nos entrées, mais on était quand même à proximité. Puis là, on se débouchait une bière à 4h30 les jours de fin de semaine, puis on jasant de voisins. Ça m'a rapproché de mes voisins, ce que je fais plus assez.
Ouais, effectivement. Puis honnêtement, à cette époque-là, on s'en rappelle, là, on valorisait beaucoup chaque petit morceau de divertissement parce qu'il y a eu un bout vraiment, vraiment plate. Puis moi, j'ai déménagé en 2020, novembre 2020. Et je n'ai jamais eu autant de participation à mon déménagement.
C'est clair!
Le monde capotait. Ben là,
oui,
c'était comme « Yay! On va voir du monde! »
J'ai déménagé en août 2020.
Il y avait participation.
Je pense qu'on était 18 chums.
C'est
on
ça.
On a peinturé mon jumelé en une soirée tellement qu'il y avait du monde.
Ben, c'est ça. Hey, d'autres, on a mangé de la pizza dehors, on était bien.
Trois par pièce, let's go. On a commencé le déménagement, il était 2h de l'après-midi. Et à 9h le soir, je prenais une photo de mon jumelé.
Tout était fait.
Les boîtes vidées, mis dans le recyclage. Jamais eu autant de monde qui avait le goût de faire un déménagement.
Maintenant, tu veux déménager, bonne chance, trouver du monde.
Ouais.
Tu sais, ça fait pas si longtemps que ça, hein? 2020, ça fait quoi, 6 ans?
Ben
six
oui,
ans de ça
fait pas longtemps.
Dans nos têtes, c'est comme si on se souvient plus de ces moments-là. En tout cas, moi, je sais pas. C'est comme si j'ai essayé d'enterrer ça, mettre ça dans une boîte, puis dire, hey, regarde, c'est
vrai,
jamais arrivé.
Parce que j'avais un souvenir Facebook l'autre jour, une photo de moi en goaler dans la rue, puis là, je me suis dit, c'est vrai. Pour animer mes gars, j'avais ressorti mon équipement de goaler, puis je goalais. Puis eux autres, ils me faisaient des échappées, puis je goalais dans la rue. T'sais. Hey, j'en ai fait des affaires pour animer mes gars dans ces 2 années-là. Oh, my God. Je me suis transformé en corps arrière. Il n'y a rien que j'ai pas fait.
Mais des fois, se rappeler de ça, ce qu'on vivait à ce moment-là, ça nous rappelle à quel point on est quand même chanceux puis on est bien dans notre quotidien.
Ben oui,
parce qu'on le prend pour acquis.
Ben c'est ça, on le prend pour acquis, oui. Puis on nous l'avait enlevé. Puis en sortant de ça, moi, je me souviens, les premières fois que je suis allé au bar ou les premiers parties en sortant de la COVID, j'avais tellement de fun. Puis là, c'est comme si c'est revenu quotidien. Bon, la vie est revenue. Mais de vivre, de pouvoir vivre en société, de voir nos amis, tu sais...
Hey,
faut pas trop le prendre pour acquis. Faut pouvoir apprécier ces moments-là quand même.
Oui, vraiment. Puis ça a été très dur pour les jeunes cette période-là.
Oh, tellement.
Ça me fait penser, tu dis, on le prend maintenant pour acquis, c'est redevenu normal. C'est comme quand t'es malade. Puis
oui.
Là, tu t'en sors. T'sais, tu finis ta gastro ou ta grippe. Puis là, t'es comme, hey, je savais pas à quel point j'étais chanceux de pas avoir le nez bouché
tellement.
Ou de pas avoir la bobite.
La première journée où t'es plus malade, t'as l'impression que t'as de l'énergie comme t'en as jamais eu.
C'est une résurrection.
Puis après une semaine, ben, tu redeviens fatigué comme t'as toujours été.
Bon, ben, ouais. Si aujourd'hui vous n'êtes pas malade, prenez un instant de reconnaissance pour vous dire je profite de ma santé.
Merci Kim par texto qui dit « Moi aussi, je suis fâché! Québec, c'est la capitale nationale! » À Québec que ça se fait de la politique, c'est pas dans la métropole. Dans la métropole, on fait de l'économie.
Ouais.
Puis dans la capitale nationale, on fait de la politique.
C'est absolument vrai.
Ouais.
Mais moi, je suis pas trop fâchée aujourd'hui. Je suis juste semi-fâchée.
Je te comprends d'être juste semi-fâchée parce qu'il y a beaucoup d'annonces pour toute la province,
c'est ça.
Dont des annonces importantes pour
Donc,
Montréal
ça
aussi.
Ça passe.
Mais.
On
nous avait promis qu'on respecterait davantage la loi sur la capitale nationale du côté de la CAQ.
Oui, mais pas toute seule non plus.
Ouais.
La première ministre.
Je sais.
Hein, il y a un agenda avec le premier ministre du Canada aussi.
The Timark qui se promène pas mal, on va en parler d'ailleurs. Je me rappelle de mon premier show post-pandémie avec Billy Talent et Rise Against au Centre Vidéotron. Ça paraît si loin, c'est vrai. Avec ça, là, ça avait été le bordel total. Le monde était chaud raide.
Ben, c'était comme le party.
On sortait pour la première fois en 2 ans. On était sortis de nos
cavernes.
Non, mais c'est vrai. Ça, c'est comme Guns N' Roses. Quand Guns N' Roses était venu au Festival d'été de Québec, moi, je me stationne toujours chez mes chums en Basse-Ville, puis je monte à pied avec eux autres. On se prend une petite bière de route. Puis, des fois, les policiers nous avertissent.
Ouais, ça, c'est illégal, mais c'est pas grave.
Ouais, des fois, les policiers nous avertissent, puis là, on fait « Hein? » Pas le droit? Ben là, je vais aller mettre ça dans le bac qui est là, puis là, les policiers... Mais on a une autre petite de réserve dans le sac. En tout cas, bref, je suis un peu...
J'étais pas au courant qu'on n'avait pas droit. Ben voyons donc, c'est nouveau ça,
j'suis
monsieur Lachan.
C'est une nouvelle loi.
Je suis un peu anarchiste, ces affaires-là. Mais bref, tout ça pour dire que c'était comme si j'avais dit, coudonc, Limoilou, c'est vidé de ses égouts. Hey, le monde...
Oh là, mon Dieu!
Tu sais, les gens de 50 ans... qui, là, se retrouvait à 20 ans avec leur affaire.
Il avait accumulé 2 ans. 2 ans de party en eux. Tu comprends?
C'est épouvantable.
Fait qu'il sortait, là, c'était la sortie des sorties.
Ouais, exactement. Hey, OK, on passe dans le vif du sujet parce que je veux absolument qu'on parle de ce qui se passe en Capitale-Nationale, ce qui s'est passé à Shawinigan également. On en a parlé hier, cette manifestation, une vingtaine de personnes masquées qui ont brandi une affiche, je me souviens, d'un Québec blanc. Et là, je le répète, aujourd'hui, à la Haute-Ville de Québec, sur un muret de pierre, il est écrit « Maudits musulmans, on vous haït, retournez chez vous, décalissez ». Avant qu'on embarque dans le vif du sujet, je veux vous faire entendre Paul Saint-Pierre Plamondon et Charles Milliard aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui ont commenté.
Bon, premièrement, constatons que c'est condamné de manière unanime et instantanée. Ça, c'est un premier signe de qui est le Québec, puis comment on pense. Constatons ensuite qu'on fait référence à la couleur de peau blanche dans un slogan qui est tenu par des gens cagoulés, qui sont une vingtaine. Se pose la question, qui sont ces personnes-là et qu'est-ce qui se passe?
Évidemment, la suite est
facile
pour
moi de commencer un procès. Je n'embarquerai pas là-dedans. Je pense que Mme Fréchette a condamné ça, M. Plamondon, Mme Gazal, moi, M. Duhaime. C'est grand bien. Puis que ça nous serve de leçon sur l'importance de hausser le discours, d'élever le débat dans les 130 prochains jours qui vont nous mener à la prochaine campagne électorale.
Tellement d'accord avec Charles Milliard et Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est condamné partout au Québec. Donc, et réagissez, 418-971-1021, vous en pensez quoi de ces gestes-là? De « Je me souviens d'un Québec blanc » et de un graffiti qui dit « Maudit musulman, on vous aille retourner chez vous, décalissez ». Moi, Antonine, ça me décourage à l'heure actuelle. Ça me décourage énormément. Puis je suis vraiment pas partisan de « Ouais, mais là, il y en a qui ont fait une manifestation en pendant les Juifs. Fait que là, on va leur dire « Décalissez ». Non.
Non.
Ça a pas d'allure, les deux. Puis c'est pas parce que t'es victime de racisme que tu peux être raciste par la suite.
Exactement ce qu'on disait hier, Jeff. Tu ne combats pas un extrême par un autre extrême.
Ben non!
Tu ne combats pas l'intolérance par une autre forme d'intolérance. Tu peux pas non plus tolérer l'intolérance. On doit le condamner fortement. Puis il faut pas... tu sais, des fois, les gens vont dire « Ah, les politiciens récupèrent ça, c'est des paroles vides. » Puis après ça, ils font des politiques comme ci, comme ça. Puis nanana. Non, c'est important quand toute la classe politique d'une nation dit d'une seule voix « Ça, c'est non. » Puis, tu sais, M. Plamondon disait, c'est une vingtaine de personnes. C'était quand même important de dire que c'est pas, je pense, la pensée de la majorité des gens au Québec, j'ose espérer. Et que c'est une minorité, mais une minorité qu'on doit absolument dénoncer comme étant 100% inacceptable. On peut pas rester silencieux. Si on reste silencieux face à ça, ben on le tolère et on cautionne, en quelque sorte.
Exactement. Puis hier, là, je regardais, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont commenté justement sur cette manifestation-là, sur les médias sociaux. Puis, entre autres, David Chabot, qui est chroniqueur le matin dans l'émission Marceau le matin, les commentaires qu'il y avait sur sa publication.
Ça, c'est le bout
de
déprimant.
Parce que David disait, « Hey, ça n'a pas de sens. Dans un Québec, on est unis, on est ouvert, on est inclusif. » Ça, ça veut pas dire, là, quand je dis ça, là, ça veut pas dire d'être ouvert et inclusif à tout prix. Là. T'sais, moi, vous savez, je suis pour la loi sur la laïcité. Je suis pour qu'on encadre mieux, justement, l'itinérance. Je suis pour qu'on encadre mieux aussi les gens qui arrivent au Québec, leur parler de nos valeurs, les franciser.
Ça, c'est pas du racisme.
Donc, exactement. Mais les commentaires que je voyais en bas, les crises de musulmans, ils nous font passer à l'islam, moi, mais j'étais gêné.
Ouais, puis c'est pas juste des comptes anonymes, hein.
Non,
il y
c'est
a
ça.
Des gens
oh, c'est
nom,
des gens
là.
Qui s'affichent là.
Ouais, mais en fait, on a senti dans les dernières années une espèce de mouvement de décomplexité. Non, ça se dit pas comme ça, mais les gens sont décomplexés. Donc, ils ont l'impression que c'est correct de dire des choses comme celle-là. Je pense que la polarisation qu'on connaît joue un rôle. J'ai l'impression que Donald Trump joue un rôle là-dedans aussi. Puis, tu sais, faut pas se leurrer. Les messieurs là, avec leur masque qui avaient leur banderole en fin de semaine, là, qu'est-ce que vous pensez que c'est leur objectif? C'est de normaliser et banaliser ce genre
en
de
effet.
Discours-là.
Puis faire du recrutement en même temps.
Oui. En fait, on essaie de tasser la ligne de ce qui est acceptable ou non. Alors, sur les médias sociaux, dans l'espace public, on va dérouler des banderoles, faire des graffitis. Puis ça a tendance à malheureusement, à le rendre plus banal. Donc, c'est ça leur espérance. Puis ces groupes-là recrutent des gens sous des prétextes de groupes d'appartenance, de sport.
Dans ce cas-là, c'est
sport
le sport, exactement.
Il peut en avoir où on est plutôt... tu sais, on a vu les accusations de terroristes, notamment avec des gens à Québec qui étaient plutôt... qui tournaient autour des armes à feu,
exactement.
Etc.
Ça tourne toujours autour d'une passion. Plusieurs réactions par texto 418-971-1021. Continuez de réagir. Carl apporte un super bon point. Il va falloir se concentrer aussi sur pourquoi des gens sont attirés vers ce genre de mouvement.
Mais tellement. Mais il y a tellement raison. Pourquoi il y a des gens qui se retrouvent là? C'est un peu comme les sectes. C'est un peu comme...
Ouais.
Il faut... T'sais, tu peux combattre les sectes. Tu peux combattre les groupes extrémistes. Mais demande-toi, c'est quoi la racine de leur envie d'aller vers ces groupes-là. Ça, c'est constructif. Mais c'est pas facile, parce que souvent, c'est multifactoriel.
Exactement, parce que c'est ce que Carl dit. C'est bien de condamner, mais il faut aussi creuser plus loin pour justement venir... T'sais, moi, j'appelle toujours, depuis la pandémie, on parlait de la pandémie tantôt, je suis toujours abaisser la courbe. Mais oui. Ben, si on veut abaisser la courbe de gens qui s'intéressent à ce type de groupe-là, il faut comprendre.
Jeunes hommes, on le sait qu'il y a un enjeu en ce moment.
Puis aussi, venir baisser les risques d'escalade. T'en parlais, Antonine, de répondre avec un geste extrémiste à un autre geste extrémiste. Ça fait en sorte que d'un côté puis de l'autre, on se répond puis on se craint entre eux.
Oui.
Ben t'sais, eux autres, c'est une gang d'extrémistes. Ils voient l'autre gang d'extrémistes faire de quoi? Ben là, ça les craint. Puis là, ça craint d'autres personnes. Et puis tu finis juste par diviser ta société
tellement,
comme ça.
Et ce que ça fait aussi, c'est que les gens raisonnables ont plus envie de participer au débat. Donc là, on devient silencieux parce que tu te fais attaquer. Mettons que toi, t'es quelqu'un plutôt modéré. Puis là, tu vas dire, ben moi, je vais m'exprimer sur le sujet. Ben des fois, dans une société polarisée, tu vas te faire attaquer par les deux extrêmes en même temps. Ça devient désagréable.
Ben c'est ce qui va arriver. Moi, là, je me positionne en disant, hey, écoutez, moi, là, je suis pour la laïcité. Je suis pour les seuils d'immigration plus bas. Je suis pour la francisation, qu'on explique nos valeurs aux personnes immigrantes. Je suis pour qu'on fasse ça de façon tempérée. Ben ceux qui disent, je me souviens d'un Québec blanc, vont dire, c'est ça, t'es un multiculturaliste. Puis ceux qui sont dans l'autre extrême vont me dire, ben c'est ça, t'es pas ouvert.
Donc, ça fait taire la majorité modérée.
Ben oui, parce que,
c'est ça aussi qui est grave.
Parce que je suis convaincu que je représente cette majorité modérée-là avec le discours que j'ai.
C'est absolument vrai. Puis, tu sais, là, on parle de questions d'immigration, de racisme. Mm-hmm. Mais c'est vrai aussi en passant dans les questions féministes. Moi, j'ai en ce moment, je vous le dis, moins envie de m'exprimer sur ces questions-là parce que je me fais attaquer des deux côtés. Mm-hmm. Je me fais attaquer par des masculinistes, je me fais attaquer par des féministes qui, à mon avis, ne sont pas très constructives.
T'es pas assez féministe.
Je suis pas assez la parfaite féministe. Donc, qu'est-ce que ça me donne envie de faire? Me retirer du débat.
Ben oui.
Ben alors, qui reste dans le débat?
Ben ça. Mais là, quand tu dis « je suis contente d'avoir Christine Fréchette comme deuxième première ministre, deuxième femme à être première ministre dans l'histoire », là, les gens vont dire « c'est ça, t'es misogyne, hein? Tu veux pas les compétences? »
Tu veux pas les compétences ou tu vas te faire dire « Madame Fréchette ne fait que reproduire le patriarcat, rien n'a changé. » Là, c'est comme « là, on peut-tu, genre... »
Non, mais c'est ça.
Descendre d'un cran.
Mais c'est un bon point que t'amènes. On peut plus être dans le centre. Puis il y a un bon texto qui est rentré, justement, un auditeur, une auditrice qui nous dit « Le monde voit ce qui se passe en France et ce qui s'en vient par ici, ça leur fait peur. Mm. » Oui, oui, en effet. Mais c'est pour ça, justement, que depuis des années, on fait des politiques. Puis ça, il faut que je lève mon chapeau à la CAQ sur les politiques qu'ils ont faites.
Non, puis t'as raison. Puis on peut essayer de l'expliquer. Mais on ne peut pas le justifier.
Non.
Mais c'est vrai qu'il faut se pencher sur les explications. Si on fait juste dire c'est des caves, il n'y a aucune raison, bien là, on n'est pas en train de travailler sur les causes profondes non plus.
Mais j'aime ce que tu dis comme différence, justement, entre l'expliquer, mais non pas le justifier.
Ouais.
Parce que c'est vrai qu'il y a une explication derrière la montée de ces mouvements-là. Puis je pense qu'une des grandes explications, corrige-moi si je me trompe, c'est l'insécurité à la base.
Bien, l'insécurité. Puis honnêtement, c'est pas faux ce qu'ils disent à propos de ce qu'on a vu en Europe dans certains pays. Puis il y a une montée de l'extrême droite aussi en Europe. Parce que moi, j'ai l'impression que les partis plus de centre-gauche et de gauche, au lieu d'accepter les préoccupations des gens et d'essayer de trouver des solutions, bien... C'est comme si on a dit aux gens, c'est pas valide ta préoccupation, t'es raciste. Si tu es préoccupé les seuils d'immigration élevés puis par les demandeurs d'asile et les réfugiés, tu es raciste. Donc là, vers qui les gens vont se tourner? Des fois, vers des partis qui vont les conforter là-dedans.
En effet.
Puis apporter des fois des très mauvaises solutions, mais ils apportent des solutions. Donc moi, je trouve qu'il y a une responsabilité aussi des partis de centre-gauche et de gauche d'écouter ce que les gens leur disent. Puis d'apporter des meilleures solutions que des partis d'extrême droite.
Puis arrêter de se positionner comme donneur de leçons aussi, de dire voici la bonne façon de voir des choses. Si tu y adhères pas, t'es pas une bonne personne.
Honte à toi.
Honte à toi, t'as pas raison. À un moment donné, quand t'es une personne, puis t'as grandi, t'as bâti, t'as ton expérience, t'es bâti en tant que personne. Puis il y a quelqu'un qui vient te voir puis qui dit tout ce que t'as bâti, c'est de la marde, entre guillemets, puis qui commence à faire son donneur de leçons.
Il y a personne qui écoute dans ce temps-là.
Tu te braques, puis ça te tente pas d'écouter cette personne-là non plus.
Puis on n'est pas en train de dire il faut écouter là, les racistes, là, ils veulent un Québec blanc. C'est pas ça qu'on dit.
Non.
C'est juste le monde raisonnable qui n'est pas encore radicalisé sur ces questions-là. écoutons-les.
Ben oui, clairement. Un auditeur qui nous écrit, puis c'est drôle, justement, la gauche, à force de faire la morale, ben, l'erreur qu'ils ont créée, c'est de permettre l'élection de Donald Trump.
Ça peut être un facteur.
Ouais, moi, je pense que c'est un facteur. Je veux terminer le sujet en humour, si vous permettez.
Un peu de parce légèreté.
Que c'est un, ouais, un peu de légèreté. C'est un auditeur nous disait, ce qui dit, ben, voyons donc, moi aussi, je me souviens d'un Québec blanc. La neige est encore là, il y a 2 mois. Je comprends pas que les gens s'ennuient de la neige début juin.
Ça, c'est une personne optimiste dans la vie.
J'adore.
Je vois pas le mal
ça.
Nulle part.
Yes. Mathias, en manchette avant qu'on passe au caucus.
Oui, juste commencer avec un jugement qui a été rendu aujourd'hui. Je vous ramène juin 2024. C'est un joueur de deck, Kevin Bilodeau, qui, à la suite d'un jugement d'un arbitre, Mathieu Jonca, a décidé de frapper l'arbitre une première fois au torse et par la suite lui asséna un deuxième coup directement en plein visage. Résultat, l'arbitre a eu une mâchoire fracturée, un traumatisme crânio-cérébral dont il garde encore des séquelles aujourd'hui. Il n'a pas pu reprendre, notamment son travail dans la construction. Eh bien, aujourd'hui, Kevin Bilodeau a reçu une peine de détention ferme de 12 mois. La juge qui a dit qu'elle voulait donner un exemple, un message de société avec cette peine-là parce qu'on voit les gestes violents se multiplier, notamment dans le domaine du sport partout au Québec. Donc, 12 mois pour Kevin Bilodeau. Une histoire beaucoup plus dramatique. Je vous transporte du côté de Montréal en fin de semaine. Au parc Ouedet, dans l'arrondissement de La Salle, c'est un jeu gonflable qui a été emporté par le vent. Plusieurs mètres de hauteur, plusieurs mètres de distance aussi. Des enfants et des adultes qui se trouvaient à jouer dans ce jeu-là. Notamment une fillette de 3 ans qui était dans un état critique depuis ce dimanche 16h30. Malheureusement, on a eu la confirmation ce matin que la fillette de 3 ans en question était malheureusement décédée à la suite de l'incident.
Nos sympathies à la famille.
Et je termine avec Dominique Leblanc, qui est du côté des États-Unis aujourd'hui pour discuter de l'accord de l'ACEUM, l'accord Canada, États-Unis et Mexique. Également, une lettre de Dominique Leblanc aux différents représentants du commerce, autant États-Unis, Mexique, qui a été rendue publique aujourd'hui, nous apprend que le Canada a demandé à la fois aux États-Unis et au Mexique de renouveler le plus rapidement possible l'accord en question pour une durée de 16 ans au total.
Le caucus. Les vrais enjeux. Et voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Bon, je vais me fâcher pour une dernière fois. On se déplace à Longueuil pour une grosse annonce. C'est quoi, capitale nationale? On n'a pas de salle assez grande pour accueillir tout ce beau monde-là?
Ben, on se déplace. Vous savez, la première ministre, son comté, c'est sa rive sud, hein?
Oh, on a une première ministre montréalaise. Ça fait que les grosses annonces se font à Montréal. On aurait dû voter pour Bernard Drinville.
Écoute, j'ai même pas posé la question au cabinet de la PM ce matin parce que j'avais d'autres préoccupations par rapport aux annonces. Mais c'est vrai que, disons, dans les dernières années avec la CAQ, avec M. Legault, il y avait beaucoup de rencontres politiques qui se tenaient à Montréal.
Il y en a eu beaucoup, surtout en fin de règne de Justin Trudeau.
Oui, absolument. Puis en plus, tu sais, Justin Trudeau, on aurait pu croire naïvement qu'étant Québécois,
ben oui,
il pourrait avoir une sensibilité particulière. Oui,
mais tu connais son père.
Non, c'est, je fais un peu des jokes. Mais tout ça pour dire que, évidemment, ben, Mme Fréchette, il y avait l'agenda de M. Carney aussi, évidemment, à prendre en considération. Des fois, c'est le fédéral qui dit, écoutez, on n'a pas le temps de se rendre jusqu'à Québec tellement loin.
Ah, c'est l'enfer.
Surtout quand tu te déplaces en avion.
Ouais, quand tu te déplaces en avion, c'est quoi? C'est une petite demi-heure de plus?
C'est
là?
Une demi-heure. Oh, ça, c'est
God!
Long.
Dans un agenda. Mais c'est vrai que Mark Carney fait le tour du monde à chaque semaine. Fait bon. Que des fois, ça pourrait...
En même temps, le moins de temps que Mark Carney passe dans un avion, le
mieux.
Moins que ça nous coûte en nourriture.
On économise. Ben oui, c'est vrai, parce que 221 000 $ en nourriture
un steak
pour
de
trois
moins,
voyages non, d'avion.
Puis un steak à une couple de milliers de dollars.
Ouais, donc c'est peut-être une bonne nouvelle.
Quand ma blonde, elle me dit, faut couper dans la bouffe, chérie, là, ta barouette, Mark a pas reçu le mémo.
Tu penses à Mark, hein, dans ce temps-là?
Il a pas reçu le mémo.
Donc, moi, je suis pas si fâchée, parce que en plus, c'est une annonce qui concerne beaucoup plus d'éléments que
ben
seulement
oui.
Le tramway. C'est sûr, ça fait un peu bizarre, mais que voulez-vous?
Exactement. Mark Carney, ce matin, commentait justement l'annonce à venir cet après-midi, 15h.
Ce sera une grande annonce cet après-midi avec Mme la Première ministre du Québec. Oui, un grand investissement dans plusieurs domaines, près de 10 milliards de dollars d'investissement fédéral au Québec. C'est une grande journée.
Fait que 10 milliards. Donc là, on avait su que c'était 6 milliards pour le transport collectif. Fait que d'après moi, il va avoir, si ma boule de cristal dit vrai, il va avoir un petit 4 milliards pour nos infrastructures.
Oui, dans le fond, on parle de 5 ententes. Donc, c'est différentes enveloppes. Il n'y a pas seulement le transport collectif. D'ailleurs, je fais une parenthèse parce que j'ai entendu le point de presse de M. Carney ce matin.
Ouais, oui.
J'étais à la télé ce matin, puis ça m'a vraiment fait rire parce que c'était ce que j'appelle une mêlée de presse ambulante. Ça, les attachés de presse, ça y est, sans passant. Ils arrêtaient, ils répondaient à des questions, ils recommençaient à marcher, là, ils se retournaient pour répondre à nos questions. L'attaché de presse suivait en arrière.
Dans ce temps-là, il faut que tu dises, comme Éric Girard, « Excusez-moi, je m'en vais par là! »
Puis là, tout le monde le suit. Oh mon Dieu, je pourrais...
Non, mais c'est parce qu'Éric Girard, sa stratégie, t'en marqueras.
Il sauve.
Il le fait tout le temps sur le bord des escaliers. Tu sais, tes escaliers de l'Assemblée nationale. Fait que là, il est là.
Puis boum, il disparaît à
Puis là, quand il est allé, il dit « Excusez-moi, je m'en parle là. » Puis là, il descend tout de suite les marches.
Ben oui, mais il n'y a rien de pire que d'être pris dans un coin. T'es ministre, ben, là, t'es en mêlée de presse, puis t'as nulle part où aller. Il faut que tu passes à travers les journalistes, t'es fait. Mais à l'Assemblée nationale, je vous rassure, il y a un petit papier collant par terre. Les journalistes n'ont pas le droit de traverser cette ligne.
Hein, je savais pas ça.
Oui, parce qu'à un moment donné, c'était rendu que tout le monde était en retard. Les caucus ne commençaient pas à l'heure.
C'est ça.
Parce que le monde était pris physiquement. Ouais. Donc, oui. Donc, M. Carney qui disait que ce sera une grande annonce. Il fait pleuvoir les milliards, notre ami Mark.
Il fait pleuvoir les milliards. Bon, je veux régler une chose avant qu'on passe aux compétences provinciales. Pour le tramway, c'est une fichue de bonne nouvelle.
Bien, pour ceux qui sont pour, oui.
Ouais, mais tu sais, moi, j'ai jamais trippé sur ce projet-là. Les auditeurs le savent, j'en parle depuis 3 ans. J'étais plus un adepte du SRB. Mais là, à un moment donné, là moi, quand je nous vois chiquer dans Guinée, il y a encore su ces 36 %, puis là, c'est pas 40. Puis là, ben là, peut-être bien que là, le tramway va coûter plus cher. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire quand il va coûter plus cher? Puis là, c'est encore de la poudre. Hey, on peut-tu en réaliser un? Puis là, je vais sacrer ce que je fais rarement, un hostie de projet à Québec, là. Puis arrêtez de chicaguener, là. Puis là, envoyez-moi des insultes, si vous voulez, au 418-971-1021. Jamais je n'avais changé de prise de position. Ça fait 8 ans qu'on attend d'avoir un projet dans la capitale nationale. Puis là, enfin, le fédéral va donner de l'argent. On peut-tu juste faire... Bon, c'est le fun. Et nous, on est déjà pris dans les travaux, là. Fait que là, on peut juste l'avancer, là.
Les opposants vont pas se joindre à ta voix là-dessus.
Je le sais, mais
ça leur enlève un argument. Mais, tu sais, pour les opposants au tramway, eux, de continuer de se plaindre puis dire que ça va être un fiasco. Parce que des projets comme ceux-là, il va y avoir des imprévus, il va y avoir des dépassements,
mais
il va y avoir toutes sortes d'aventures. Fait que des brodies, je vous l'avais dit, mais tu sais, c'est
mais
tellement
non,
facile.
C'est ça.
Mais au moins, ça ouvre la possibilité d'avoir un débat sur autre chose. Parce que
le financement,
c'est ça, pour couvrir la politique municipale. Depuis que Stéphane Lachance est là, non, mais pour de vrai, on en parle tellement du financement du fédéral qui n'était pas au rendez-vous. On revenait avec ça à presque chaque point de presse. Maintenant que le financement du fédéral va être là, peut-être que le discours, ça va être « Ouais, mais ça va coûter plus cher, mais au moins, ça va être autre chose. »
Ouais, bien là, tu check les travaux, comment ça va. On va en parler tantôt, justement, moi et Mathias. On ferme-tu des rues pendant la rentrée scolaire près de l'Université Laval? T'es chiant là-dessus. Mais là, arrête de chialer sur le mot
matière,
discours.
Parce que ça va être dérangeant,
ben,
c'est déjà commencé. Mais effectivement, pour le financement... Bon, 36 % 40 % écoutez, là, y a de l'argent qui arrive d'Ottawa. Et on peut se demander aussi, c'était quoi l'intérêt de M. Carney d'annoncer ça maintenant, avant l'élection et tout ça, parce que c'est quand même un beau cadeau pour Christine Fréchette.
Ben oui.
Je pense que M. Carney a avantage à, disons, faire des cadeaux au parti non séparatiste
Oui,
du
clairement.
Québec.
C'est sûr.
Ça vient jouer, et si c'était les libéraux au pouvoir, je ne sais pas si un gouvernement du PQ... aurait eu ce cadeau-là à quelques mois d'élection comme tel.
Là, on va surveiller les champs de compétences parce qu'on est directement dans les champs de compétences.
Moi, je surveille ça, moi, les champs de compétences.
Et on écoute à cet effet Paul Saint-Pierre Plamondon ce matin et Charles Milliard également qui a défendu les champs de compétences du Québec.
Un autre facteur, c'est est-ce que Christine Fréchette a vraiment gardé toutes les revendications que François Legault avait ou est-ce qu'on a laissé aller certains principes au niveau du fédéral qui tentent de décider à notre place dans nos champs de compétences. Moi, je dis allez voir l'entente, mais on ne peut pas fermer les yeux sur le fait que, comme par magie, ces dossiers-là et cet argent-là commencent à couler.
Et Charles Milliard.
Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on va vouloir faire respecter nos champs de compétences. Alors, s'il y a des investissements, puis là, je ne dis pas que c'est le cas ici aujourd'hui, mais en santé, en éducation, dans des dossiers où on a pleine juridiction, on va vouloir négocier à l'avantage du Québec en respectant les champs de compétences. C'est ça, la Fédération canadienne. Puis je vous rappelle qu'être fédéraliste, c'est vouloir que le Canada fonctionne, mais c'est, on fait de la politique québécoise, Marc et moi, donc l'important, ça va être de respecter les prérogatives du Québec.
Parce que là, c'est la grande question, Antonine, et c'est la grande question parce que la province de Québec est la dernière à signer le deal pour le transport et pour les infrastructures.
Oui.
Puis là, ce qu'on imagine comme hypothèse, c'est que François Legault était catégorique sur les champs de compétences du Québec, puis il disait « c'est pas vrai que je vais vous faire des redditions de comptes, vous autres, le gouvernement fédéral, parce qu'il va falloir que mon projet de transport réponde à tel, tel, tel critère. C'est à moi à les décider, c'est ouais. ma province. » Donc là, qu'il pleuve...
Ma nation.
Hein? Ma nation, t'as raison, ma nation. C'est vrai, il faut que je me corrige. Je suis peut-être un futur souverainiste, on ne sait pas.
Écoute, je lâche pas.
Peut-être. Mais bref, tout ça pour dire que là, qu'il pleuve 10 milliards aujourd'hui sur Longueuil, je le rappelle, pas en capitale nationale, sur Longueuil.
Mais il pleuve quand même jusqu'à Québec, les milliards.
Je avec le tramway. Mais qu'il pleuve 10 milliards, on est en voie de se poser la question, coudon, Christine Fréchette, as-tu accepté des choses que François Legault n'accepte pas?
Est-ce qu'il y a des concessions qui ont été faites? Les détails sont dans les petits caractères. Parce que, puis là, les gens peuvent se dire, hey, on s'en fout de ça.
Ouais, non, mais en effet.
Des compétences.
Mais vas-y,
donne-nous
pourquoi
l'argent.
Il ne faut pas s'en foutre?
Bien, il y a deux raisons. La première, c'est important de faire respecter les compétences du Québec. Parce que quand tu commences à ouvrir la porte, là, puis à dire, OK, ben pour un milliard, moi, je suis prête à sacrifier ceci, cela, ça finit plus. OK? Puis, le fédéral n'est pas correct de nous faire miroiter des milliards en disant « Ah oui, mais par contre, il faut que tu fasses telle concession. » C'est pas du beau fédéralisme,
c'est
les amis, OK?
C'est anticonstitutionnel.
Oui,
donc, c'est ne pas respecter la Constitution canadienne qu'on l'a, by the way, même pas signé.
Puis après ça, nous, quand on la respecte pas et qu'on veut déroger à la Constitution, c'est bien la fin
Exactement.
Du monde, là, on s'entend. Mais il y a vraiment une raison que moi, j'entends pas beaucoup dans l'espace public et que je veux vous soumettre. Pourquoi c'est important aussi de s'assurer que le fédéral n'empiète pas sur nos compétences? Il y a des raisons financières et d'ordre de l'efficacité aussi. Parce que quand le fédéral nous dit « OK, je te donne un milliard pour ton programme, pour tel programme, mais moi, là, je vais gérer tel bout, j'ai besoin que tu me donnes tel document, j'ai besoin que tu fasses telle reddition de compte, j'ai besoin que tu me transmettes telle donnée. »
T'es en train de me dire de la bureaucratie, de l'administration, des coûts additionnels.
Damn right. La bureaucratie fédérale est obèse.
Sous Trudeau, c'était épouvantable.
Elle
a augmenté de 100 000 fonctionnaires.
Mais ça n'a aucun sens. Et c'est facile, en passant, augmenter des fonctionnaires.
Ben oui.
Alors, pourquoi ce serait au fédéral de gérer tout ce qui concerne les hôpitaux, les écoles, la formation professionnelle, des projets de transport collectif? Ça n'a aucun rapport d'être géré par le fédéral.
En effet.
Et à chaque fois qu'on met une condition, on met des fonctionnaires avec qui vont surveiller puis s'assurer de faire les suivis. Et un dollar que tu mets dans l'appareil bureaucratique fédéral, tu fais beaucoup moins de chemin qu'avec un dollar que tu mets au local. On devrait constamment se demander, est-ce que cet argent-là est le plus proche possible du terrain et du citoyen?
Tu me convaincs tellement.
Merci. Donc, c'était mon plaidoyer. Pour ceux dont la Constitution puis les compétences, ça vous intéresse moins, vous êtes des contribuables. De l'argent géré par le fédéral là, dans des grandes tours d'ivoire loin du monde, là, c'est pas efficace.
Non, exactement. Pour la route que je veux refaire à Saint-Augustin, hein, c'est pas efficace.
Ça n'a pas rapport. Et Mark Carney, c'est sûr qu'il y a un intérêt là-dedans en ce moment parce qu'il veut des projets. Là, c'est ça l'affaire avec les transports collectifs. C'est que ça rentre un peu dans toute l'initiative de stimuler l'économie. Mm-hmm. Parce que des projets d'infrastructure, que ce soit en transport collectif, en transport routier, en énergie, peu importe, ça crée des emplois.
C'est clair.
On commande du matériel. Il y a des entreprises québécoises qui peuvent fournir certains matériaux. Donc, la construction, c'est important pour la stimulation de l'économie. Mais donne l'argent, arrange-toi pour que les projets avancent. C'est ça le rôle du fédéral. Ça s'arrête là. Tu n'as pas d'affaires à gérer les virgules par la suite.
Je suis très, 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 très d'accord avec toi. On continue sur Mark Carney. Je vais te faire écouter quelque chose.
OK. Okay?
C'est pas nécessairement une blague, mais c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. Tu es prête?
Oui.
Pourquoi pas suivre le plan conservateur
ça,
pour sauver 25 sous le litre pour les consommateurs en éliminant toutes les taxes libérales
à la
pour
des
toute
communes.
L'année.
Le très honorable Premier ministre.
Monsieur le Président,
Mark Carney
le gouvernement a un plan global afin d'augmenter l'abordabilité
Mark
pour les Canadiens et les Canadiennes,
est en train de répondre.
Y compris la suspension
là, vous allez voir son français
du taxe d'accès sur le gasoline et deuxièmement,
attends,
réduction de taxes de classe moyenne. Le bénéfice de l'EPC est essentiel et tous les autres programmes qui compris 20 000 de dollars par famille par année.
Exactement. De dollars ou de dollars? En tout cas, écoute.
Là, premièrement, j'ai laissé jusqu'au bout parce que je me suis dit, ils se pratiquent pas assez en français. J'ai rien compris.
C'est drôle parce que ce matin, en Scrum, en mêlée de presse, je l'ai trouvé bon.
Oui, mais là, j'ai rien compris de son 10-12 secondes. Et ce qui me fait rire aussi à la Chambre des communes, sur ça, je l'ai laissé. À chaque coup que Mark Carney parle, tu as toujours Stephen McKinnon, quand ça finit puis les applaudissements, qui passe un commentaire. Exactement!
Oui!
T'entends toujours McKinnon à l'arrière.
Tu touches une de mes cordes sensibles, OK? Tu touches à ma sensibilité. Parce que la période de questions à la Chambre des communes, c'est n'importe quoi.
Je suis d'accord!
C'est du grand théâtre, là.
Ah oui.
Ça a pas
Ils sont
d'allure.
Toujours en train de s'ovationner par-dessus s'ovationner, crier par-dessus.
Il a raison!
Ça a l'air.
Non, mais...
Quand je veux rire, j'écoute la période des questions.
Mais moi, je ris, mais je pleure un peu.
Ben oui, parce que c'est notre démocratie, c'est notre parlement, c'est notre institution.
Le Bloc québécois a publié, l'attaché de presse, Julien Coulombe, a publié des chiffres sur X, et ça m'a accroché parce qu'il disait que Mark Carney n'avait que 27 % de taux de présence à la période de questions.
Oh, bon, boy, là, t'es renvoyé de ton école avec ce taux de présence-là.
Moi, c'est pas la note de passage, on s'entend. Bon, non. Trudeau non plus n'avait pas la note de passage. C'était 42 % de présence. Ouais. Par contre, Justin Trudeau, à tous les mercredis, prenait toutes les questions. Donc, pas seulement les questions des chefs. N'importe quel député se levait, il répondait aux questions.
C'est bien. Bon, puis là, je me dis, bon... Au moins, Carney, c'est pour des missions économiques. Justin, des fois, c'était paralysé déguisé en Inde.
Ben, c'était des missions plus culturelles.
Ou des missions pour planter 2000 arbres qui se plantent pas.
Ben, là, ça a fait du compost, ces arbres-là. On a vu ça cette semaine. C'est extraordinaire. Stephen Harper, c'était 65 % de taux de présence.
Ça, honnêtement, je trouve ça très, très, très bon pour un premier ministre parce qu'un premier ministre a à gérer le pays puis à être ailleurs.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, 65 % c'est très bon.
Tout ça pour dire que quand j'entends la période de questions puis les questions, des fois, un petit peu biaisées et les effets de toge puis les coups de théâtre puis tout ça, je comprends un gars de finance, comme M. Carney se dit « Hey, j'ai-tu d'autres choses à faire que d'aller participer à une petite pièce de tee-out? » Moi, ça me tente pas.
C'est vrai.
L'affaire, c'est que la période de questions, ça devrait être quelque chose d'important, qui revient une certaine dignité. C'est le moment fort des oppositions et c'est un moment de reddition de compte. Encore faut-il que ce soit fait de manière à ce qu'on ait des réponses aux questions. Et quand on compare la période de questions à Ottawa versus à Québec, on est dans deux univers complètement différents. Ben oui, des fois, il y a des niaiseries à Québec, puis là, ça fait les nouvelles, puis on ne voit pas toujours toutes les périodes de questions, personne n'écoute ça au quotidien, puis des fois, on voit juste la garderie, là, ce qui fait les nouvelles. Mais il y a vraiment une plus grande dignité à Québec. Premièrement, il y a moins de questions. Et tu as plus de temps pour poser ta question, et les ministres et le premier ministre ont plus de temps pour répondre à la question. Il n'y a plus d'applaudissements.
En effet.
Donc là, on perd plus notre temps à se « Oh, bravo! » Puis on n'a plus de Stephen McKinnon là, qui fait ses commentaires à côté.
Exactement!
Ça, c'est un bon joueur là, d'équipe. Là. Tu sais, c'est celui qui encourage
tout le temps.
Le capitaine.
Ça va être François-Philippe Champagne, Lightbound, Mark Carney. T'entends toujours McKinnon dire après « C'est vrai, ça! »
C'est vraiment ridicule. Mais ce qui fait qu'on perd un temps précieux, que ça devient qui va dire la ligne la plus assassine, mais est-ce qu'on va vraiment chercher des questions, puis est-ce qu'on fait vraiment de la reddition de compte? Et à Ottawa, on le sait, l'imputabilité, elle est moins présente. On pose des questions, personne ne répond, on passe à autre chose. Mais il ne se passe rien. Et moi, je pense que ça contribue directement à des scandales financiers, des scandales politiques.
Ben oui.
Parce que, regardez, les chauffeurs à rabais.
Ah oui.
Le Bloc pose des questions, ils se font pas répondre, on passe à un autre appel, puis c'est pas parce qu'ils travaillent pas fort.
Hey, mais je veux pas être chauvin, là, mais tu sais, moi, je les écoute beaucoup, les périodes de questions, OK? À l'Assemblée nationale, honnêtement, là, tu sais, je te dirais, les libéraux puis le PQ sont pas mal égales, ça à rigueur à l'heure actuelle versus la CAQ.
Ouais.
Québec solidaire, ben, c'est peut-être parce que je les trouve un petit peu trop, des fois, dans leur monde, que je les trouve moins pertinents.
Mais ils posent des bonnes questions.
Mais du côté fédéral, c'est clairement le Bloc québécois, honnêtement, les meilleurs.
Ben, qui fait vraiment le travail.
C'est vraiment eux autres.
Les conservateurs, ils vont beaucoup avec des lignes de communication assassines.
Ouais.
Et je comprends parce que tu veux faire la clip. Tu veux, tu sais, c'est la période de questions, c'est ça que tu vas prendre des extraits.
Oui, mais ça manque de substance.
Ben, c'est parce qu'à un moment donné aussi, l'autre affaire, c'est qu'ils ont décidé de toujours poser les mêmes questions.
Ben, c'est ça. Fait que là, c'est facile pour les libéraux.
Oui, Puis ça devient redondant. Fait que là, Mark Carney, il dit « Ouais, mais je verrais bien à période de questions, ils vont toutes me poser 4 mêmes questions que d'habitude. » Donc, je trouve que tout le monde participe un peu. Je dis tout le monde, pas, le bloc fait vraiment un excellent travail. Mais tout le monde participe un peu à faire de cet exercice-là quelque chose d'inutile. Et honnêtement, ça contribue à la non-imputabilité au palier fédéral. Et on envoie beaucoup d'argent à Ottawa, là. Moi, je m'excuse, mais je trouve ça sérieux. Donc, on devrait réduire le nombre de questions. Puis quand un ministre répond pas à une question, à Québec, là, si, mettons, je pose une question puis que le ministre il dit n'importe quoi en réponse, il va avoir des articles de journaux. Puis le lendemain, on va reposer la question. On va dire « j'ai pas eu la réponse ». Tu vas payer un coût politique. Tu peux pas ne jamais répondre. Christine Fréchette, là, dans ses crédits, là, elle n'a pas répondu à quelques questions. Paul Saint-Pierre Plamondon, il posait des questions la semaine passée sur le projet de Nemaska Lithium. Ben, ça a fait les nouvelles qu'elle n'a pas répondu.
Il y a la rigueur médiatique et journalistique aussi qui fait une différence.
Ben, c'est ça. Puis je veux pas pointer du doigt les journalistes, mais c'est l'ensemble de l'œuvre. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans.
Mais le problème aussi, c'est que c'est la population qui perd sur le long terme avec ça. Tu sais, t'en parles. Au final, la Chambre des communes actuellement, le premier ministre y est jamais. Puis le parti d'opposition, la seule chose qu'il cherche à faire, c'est des clips pour des réseaux sociaux.
Ben, ça, donc, qui porte la voix des citoyens à un moment donné? Où sont les réponses?
En effet.
Moi, je veux des réponses à des questions. C'est ça, c'est une période de questions, c'est pas une période de galage puis de ligne de com', là.
Je suis entièrement d'accord avec toi. On termine le caucus du lundi au jeudi avec Antonine Iaccarini à l'émission On en jase. Antonine, on est dans une récession technique. On écoute Pierre Poilievre à ce sujet ce matin.
On est le seul pays en récession. Il y a 112 000 Canadiens qui ont perdu leur emploi. Et on doit se concentrer sur les enjeux ici, au Canada.
Pas de solution, évidemment.
Ben, bon. Pas rien que ça, il dit on est en récession. Quelle belle rigueur. On est en récession technique. Oui. Il y a une nuance.
Ben, c'est ça, il y a une nuance. Bon, on apprenait que Donald Trump diminue des tarifs sur l'acier, l'aluminium. On t'en parlait tout à l'heure. Les infrastructures aussi qui nous aident à passer au travers. Dominique Leblanc qui est en négociation à Washington. Là. Moi, je veux te parler de quelque chose. Là, j'entends plein de monde dans les médias dire « Regardez, le Mexique est en avance sur nous autres. Nous on fait mal de se braquer contre les États-Unis. » On peut-tu attendre les résultats avant de déchirer notre chemise?
Ouais, moi, j'ai d'autres choses que j'attends.
Vas-y donc.
Les élections de mi-mandat.
Ben, c'est ça.
Parce que je comprends les gens.
Je pense qu'on parle le même langage. Vas-y.
Bon, je comprends les gens. Premièrement, là, ça a l'air que Donald Trump va baisser les tarifs. Quand il fait des annonces, on ne sait jamais exactement comment ça va se décliner. Bon, on pourrait être cynique puis dire probablement qu'il a acheté des actions dans des compagnies d'aluminium la semaine passée. Fait que là, il faut qu'il fasse monter le cours. Ah, excusez, non, faut pas dire ça.
Ouais, mais c'est pas être tant cynique, tant qu'à moi.
En tout cas, à suivre. On sait les négociations avec les États-Unis, ça va pas très bien. Non. Soyons honnêtes. Dominique Leblanc est à Washington aujourd'hui. Les Américains, croyez-le ou non, sont très fâchés contre nous. Puis quand je dis Américains, je parle pas de monsieur, madame, tout le monde. Ils n'ont même pas connaissance qu'on existe, là. Mais à Washington, les gens sont fâchés contre nous. Mm-hmm. Ils ne comprennent pas pourquoi on est fâchés. Ils ne comprennent pas pourquoi on ne vend plus d'alcool américain sur nos tablettes.
Ouais,
ils comprennent pas pourquoi on ne va pas voyager au Vermont, en Floride, dans le Maine.
À coût de 35 puis 25 % de tarifs, c'est passé?
Voyons. Ben,
c'est pas grave,
à coût de, on a retiré la taxe sur les services numériques.
Voyons, Jeff. Donald Trump qui revient avec le 51e État américain sur Truth Social aujourd'hui.
Pourquoi ça nous fâcherait? Voyons. Ben voyons donc, c'est bizarre.
OK, on a enlevé les contre-tarifs, on a enlevé la taxe sur le numérique. Donc, on a déjà fait notre bout de chemin, mais là, il faudrait en faire encore.
Puis on n'a rien eu en échange.
On n'a rien eu en échange, mais là, il faudrait en refaire d'autres.
Oui, puis il faudrait surtout qu'on vienne s'aplaventrer.
Oui.
Et aller signer un deal vite, là, le plus rapidement possible. Hey, c'est pas une course. Moi, que le Mexique soit en avance, ça me fait ni chaud ni froid.
Ben, moi non plus, je suis tellement content de t'entendre.
Bon, maintenant, il faut rester rationnel. Être fâché, c'est pas une stratégie.
Non.
Par contre, être fier puis patient, ça, c'est une stratégie.
Je suis d'accord.
Quand un adversaire, en fait, qui devrait être un partenaire, ne négocie pas d'un point de vue gagnant-gagnant et que c'est juste gagnant-perdant, c'est pas pareil que de faire une vraie négociation. Ça, c'est la première des choses. Et quand tu fais une concession et que tu n'as rien en échange, qu'est-ce qui te reste? Parce que c'est ça, une négociation. C'est je te donne un peu, tu me donnes un peu, on trouve un terrain d'entente. Quand tu as un président des États-Unis qui dit « Vous allez devenir le 51e État, je veux détruire votre économie, je veux rapatrier l'industrie automobile qui est si importante à vos yeux chez nous », il n'y en a pas de négociation possible.
En effet.
Donc, moi, j'ai bien des critiques contre M. Carney, puis contre Dominique Leblanc, puis contre la gang. Mais honnêtement, c'est pas une négociation qui est normale. Et c'est là que la patience embarque. Il ne faut pas être fâché, il faut être stratégique. Le temps est notre allié. La CEUM existe encore pour l'instant. Et il y a les élections de mi-mandat qui s'en viennent l'automne prochain. M. Trump, c'est la lumière au bout du tunnel pour nous, là. C'est son taux d'impopularité en ce moment. Les sondages sont catastrophiques pour M. Trump. L'économie ne va pas super bien. La guerre en Iran a vraiment contribué à faire une scission dans le mouvement MAGA.
Ouais.
La question de d'Epstein aussi, en exactement. Passant, ça ne va pas très bien. Donc, pourquoi on se garocherait à faire un mauvais deal dans ces circonstances-là? Mm-hmm. Alors qu'il ne nous donnera rien en échange, là.
Pour donner plein de pouvoir à Trump, qui pourrait garder une chambre majoritaire à mi-mandat, puis après ça, qui pourrait bien nous recalifier des tarifs comme il veut.
Absolument.
Parce qu'il s'en sac. Ce qu'il faut, c'est que Trump perde la majorité et au Sénat et à la Chambre des communes. Fait que pour ça, il faut être patient. Puis je suis d'accord avec toi, c'est là que la patience devient une stratégie. Fait que c'est pour ça que moi, quand j'entends les gens dire « On est donc bien con, Canada, le Mexique est en train de négocier. » Ben, ça,
ben, le ça Mexique n'est pas
affaire.
Dans la même position.
Ben non.
Puis, soyons clairs, c'est dur.
C'est
ben pas oui. le fun. Il y en a des conséquences.
C'est clair.
Mais c'est quoi l'alternative? C'est que vous allez donner des gains? Vous allez l'aider en plus
ben
à avoir des meilleurs résultats aux élections de, mm-hmm. de mi-mandat? Non. Donc, ouais,
patience. Puis les conséquences sont là, sont réelles. On est en récession technique. On a des entreprises de bois d'œuvre qui ont fermé. On a des entreprises d'aluminium qui ont de la difficulté. Même
tout
chose
ça,
pour l'acier. Les meilleurs ont réussi à s'en sortir à coup de stratégie, puis parce qu'il y avait déjà des bons contacts avec les États-Unis. Il y en a d'autres, malheureusement, qui ferment. C'est plate. Tu sais, j'ai l'air bien insensible dans mon studio
mais
radio
non.
présentement. Ça me touche énormément. Mais qu'est-ce que vous voulez? Malheureusement, c'est le prix à payer, puis c'est pas nous autres qui l'a décidé, ce prix-là. Puis on aurait. Ça serait encore plus tough si on signait un mauvais deal.
Bien, exactement. Donc, soyons patients. C'est difficile. Entraidons-nous. Les gouvernements doivent soutenir les industries qui passent une mauvaise période de temps.
Oui.
Et on met tous nos chapelets sur la corde à linge pour les élections de mi-mandat de l'automne.
Exactement. Antonine Iaccarini, toujours un bonheur de te parler.
On
se parle demain, bien sûr. Avec plaisir. Au retour de la pause, on fait quelques manchettes. Et par la suite, on va vous parler de la loi 101 qui s'étend aux achats des municipalités. Anto, qui s'en va. Même Charles Milliard et PSPP pensent la même chose là-dessus. Un deuxième point en commun entre le chef libéral et le chef du PQ.
Habituellement, quand le Parti libéral et le Parti québécois, les deux disent « Ouais, ça, c'est une mauvaise chose », c'est que la CAQ l'a un peu échappé.
D'après moi, oui. Et toi, tu as parlé avec Marc-André Palin, qui est justement le directeur général de l'Association des directions municipales. Hein, je pense que c'est bien
oui,
ça.
Oui, exactement.
Hein? Exactement. Donc, tu vas nous faire un bon dossier là-dessus, Mathias. Au retour de la pause, on en jase sur Boulevard 102.1.
On en jase à Boulevard 102.1. Les gros dossiers du jour, ce qui se passe dans notre ville, tout ce que vous devez savoir. Jusqu'à 14h, on en jase.
Je préviens, on jase.
Midi 54 minutes, je vous le rappelle, si jamais vous sortez de l'auto pour retourner au bureau, blvd.fm, c'est notre web radio. Téléchargez notre application, c'est la meilleure façon de nous écouter, comme Carl qui est à Moncton. Présentement, BLVD 101, c'est disponible sur App Store et Google Play Store. Et ce vin au parleur intelligent, là, surtout pour ceux qui sont en télétravail à l'heure actuelle, bien installés dans leur bureau ou sur la table de la cuisine. Vous dites « Écoutez BLVD 102.1 » et on apparaît dans vos oreilles. À la météo, 22 degrés aujourd'hui, alternance de soleil et nuages. Présentement, c'est un petit peu couvert. Demain, 26 degrés ensoleillé. Jeudi, 25 degrés, alternance de soleil et nuages. Et vendredi, 26 degrés, alternance soleil et nuages. Je vous invite à aller au stade Canac, voir les Capitals, parce qu'ils sont là à compter d'aujourd'hui pour 6 soirs consécutifs avec ces belles températures-là. Allez au stade Canac, les Capitals de Québec, c'est encore un excellent show. 15 victoires, 4 revers, Mathias, depuis le début de la saison. Ce soir, ils amorcent une série de 3 matchs contre les Jackals du New Jersey, qui ont un dossier de 11 victoires et 7 revers. Il y a encore des billets de disponibles.
Tout un début de saison, puis ils sont vraiment revenus au bon moment, là, avec le début d'été
oh
qui arrive finalement,
oui.
Après tout ce temps-là. Quoi de mieux au début de l'été, enfin, on a de la bonne température de pouvoir aller profiter de ça dehors avec une bière, une poutine à 3$ et une bonne game de baseball.
Ah oui.
Il n'y a rien de mieux que ça.
Hey, une petite bière à 4$, une petite poutine à 3$, puis un petit billet à 10-12$. Hein.
La soirée coûte pas cher.
Belle c'est, soirée, c'est, non, pas mais à
c'est,
peu près.
C'est quand même exceptionnel. Ben là, oui. On parle d'une partie de sport avec repas, boissons alcoolisées, ouais. En bas de 20$.
Exactement. Ben c'est ça, les capitales de Québec. Pas pire, hein?
Ah, pas pire. Ouais,
moi, c'est pour ça qu'ils ont un succès, un franc succès à chaque année. On va parler tout à l'heure du début de la finale de la Coupe Stanley avec Alex Laramé en fin d'émission. Mathias, avant de parler de cet élargissement de la loi 101 qui ne fait pas du tout de sens, vous pourrez réagir au saut 418-971-1021 comme vous le faites très bien. Qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Ouais, je commence avec un drame qui nous est parvenu ce matin. C'est en fin de semaine, dimanche 16h30, du côté de Montréal, plus précisément l'arrondissement de La Salle. Au parc Ouellette, un jeu gonflable a été pris dans une rafale de vent. Plusieurs mètres parcourus par ce jeu gonflable-là, plusieurs mètres de hauteur également. La chute a blessé quelques adultes et quelques enfants qui se trouvaient au sein de ce jeu gonflable-là. 5 blessés, dont une fillette de 3 ans qui était dans un état critique. Malheureusement, ce matin, on a appris que la fillette en question était décédée. C'est ce que le bureau du coroner a confirmé. Nos pensées sont avec, bien sûr, la famille la petite fille. Un joueur de deck hockey a reçu une peine quand même assez élevée. On parle de Kevin Bilodeau qui avait asséné un coup au torse et en plein visage d'un arbitre en juin 2024. Eh bien, la juge lui donne 12 mois de peine de détention ferme. La juge qui dit vouloir faire un exemple, un message clair à la société en raison des nombreux gestes de violence qui commencent dans le milieu du sport.
Très bonne idée de la juge de donner cette peine-là. Je le cacherai pas, là, je vais le dire au micro. Moi, je le connais, Kevin Bilodeau. C'est un gars avec qui j'ai joué au deck hockey. C'est un gars avec qui j'ai arbitré au deck hockey. Puis ça passe un message clair aux joueurs de deck hockey. Il y a encore... Je suis plus vraiment dans le deck hockey, toi tu l'as, mais je pense qu'il y a encore beaucoup quand même de violence verbale envers les officiels, puis on sait jamais comment tout ça peut virer. Et du côté de Kevin, dans ce cas-ci, ben malheureusement, là, il est allé de gestes impardonnables, d'une attaque armée envers quelqu'un qui fait juste son travail d'officiel en passant, puis qui fait juste faire les appels au mieux de sa connaissance, au mieux de sa compétence. Alors, pour de vrai, là, t'sais, même si j'ai connu Kevin dans ma vie, je suis très content du jugement là, porté par la juge.
Puis la juge a donné 12 mois, puis elle a comme sous-entendu que c'est parce que la couronne a demandé entre 10 et 12 mois.
Ouais, mais c'est
si
ça.
La couronne
aurait donné
avait
plus,
demandé
hein?
plus, elle aurait pu donner plus. Tu sais, au deck, je pense que par contre, puis ici, il y a des joueurs de deck par texto au 88-971-1021, oui. N'hésitez pas. La vis a été resserrée dans les dernières
vraiment?
Années. Moi, j'ai passé 2-3 années sans jouer. Là, j'ai recommencé à jouer cet été. Puis c'est beaucoup plus respectueux parce que les arbitres sont beaucoup plus sévères sur
exactement.
Les antisportifs, autant entre joueurs qu'envers les arbitres. Puis je pense que c'est correct. Là. Je veux dire, hey, on joue au deck pour le fun.
Exactement. Faut jamais oublier que tout le monde travaille le lendemain ou tout le monde va à l'école. Mais bref, c'est un loisir, le deck hockey. Faut que ça demeure un loisir. Je salue d'ailleurs les différentes associations de deck hockey qui ont serré la vis. Puis je les salue aussi parce que dans le cas d'un dossier comme Kevin Bilodeau, il est barré à vie partout dans la province.
Avec raison.
Donc, pleinement avec raison. Donc,
c'est mérité.
Toutes les associations sont unies là-dessus. Bravo.
Je termine avec une dernière, un resserrement à la loi 101. En fait, c'est que je vous ramène en 2022, lorsqu'on a mis en place la loi 96. Dans la loi 96, il était marqué qu'un employé d'une municipalité, en fait, qu'une municipalité, pour tout contrat à exécution instantanée, devait faire affaire avec des entreprises qui respectaient le processus de francisation.
Mm-hmm.
Pour vous résumer, c'est quoi un contrat à exécution instantanée? C'est tout achat quelconque. On parle d'un sandwich, d'une paie, n'importe quoi.
OK.
Donc, n'importe fait quel
que
achat.
Que ça coûte 3$ ou 300 000, c'est la même règle.
C'est la même règle.
OK.
Ça, c'était en 2022. Oui. Au printemps 2023, les municipalités ont dit ça n'a aucun bon sens parce que quand on veut aller acheter quelque chose, il faut vérifier si l'entreprise fait partie de la liste
en
ou
effet.
Non. Ça nous rajoute de la paperasse, ça nous rajoute de la bureaucratie. Le gouvernement du Québec a dit « Hey, vous savez quoi? Vous avez raison. » C'est un peu ridicule. Fait qu'on va faire une exception, c'est tous les articles de 5 000 et plus que vous allez devoir vous procurer justement à des magasins qui respectent ce processus-là. Parfait. On arrive au 1er juin 2026. Cette exception-là aux 5 000 ben, elle prenait fin hier.
OK. Donc là, il faut retourner dans une bureaucratie monstre pour faire l'achat, exemple, d'une pelle à 10 pièces.
Exactement. Une nouvelle directive a été envoyée aux municipalités. Comme quoi, justement, si la municipalité achète quoi que ce soit, un sandwich, n'importe quoi, bon, on ne peut pas l'acheter à n'importe quelle entreprise. Il faut que l'entreprise soit conforme complètement à la loi 101 en question.
C'est complètement fou. Vous savez, quand même, moi, je suis un grand défenseur de la langue, puis je veux qu'on protège notre langue au Québec. Mais là, il y a des aberrations que je me rends compte. Celle-ci en est une. Ça n'a pas de sens qu'on demande ça aux villes. Puis je fais juste regarder là, un peu plus loin parce qu'on regarde là, du côté du Carrefour Le Bourgneuf. Tu sais, l'affichage. Ça n'a pas de sens de demander ça à nos commerçants, l'affichage non plus. C'est deux lois que je trouve qu'on va beaucoup trop loin. Tu as parlé, toi, avec Marc-André Palin, justement, qui est directeur général de l'administration des directions générales des municipalités?
Exactement. Puis justement, parce que là, c'est un peu ridicule, on va dire la vérité. C'est un peu ridicule de demander ça aux municipalités.
Ben oui.
Puis Marc-André Palin, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'en plus de ça, présentement, du côté du ministère des Affaires municipales, on demande de réduire la bureaucratie municipale. Puis pendant ce temps-là, le ministère de la langue française ajoute ces réglementations-là concernant les achats. Je vous laisse écouter.
Actuellement, là, il y a une orientation gouvernementale de réduire le fardeau administratif. Et il est clair que cette directive-là va à contraire là, totalement de la directive gouvernementale de réduire le fardeau administratif des municipalités. Donc, il est clair que quand on met des personnes dévouées à vérifier les formulaires, à vérifier la technicalité finalement administrative, toute cette lourdeur-là administrative, pardon, fait en sorte que ça emmène moins de temps et d'argent là, aux municipalités, ça c'est clair.
Fait que là, Mathias, le gouvernement dit « Hey, les villes! » François Legault, ils ont traité de quêteux une couple d'années.
Ouais.
Là, Christine Fréchette puis Samuel Poulain, le nouveau ministre des Affaires municipales, disent « Hey, les villes! » Réduisez votre fardeau administratif, vous coûtez trop cher. Et c'est pour ça que vous taxez trop le monde. C'est pour ça que vous avez un retard des infrastructures. Mais pour une pacotille de langue française qui appartient pas du tout aux municipalités, on leur rajoute des employés municipaux.
Exactement. Puis pour vous donner une idée là, de la complexité puis du ridicule du processus, ça, Marc-André Palin m'expliquait un peu en quoi ça allait consister, ce processus-là.
Parce qu'au final, là, ça prend du temps. Là. Il faut s'assurer qu'à chaque fois, une organisation vérifie avant de contracter avec une organisation que la dite organisation, entreprise privée, n'est pas sur la liste finalement des entreprises qui ne seraient pas conformes. Et ça, cette liste-là est envoyée mensuellement. Donc à chaque fois, il faut la revalider parce que si au mois de juin, l'entreprise n'apparaît pas sur la liste, ça ne veut pas dire qu'au mois de juillet, elle y apparaîtra
pas. OK, fait que là, je vais acheter ma petite pelle, je suis dans une petite municipalité,
oui.
À ma petite quincaillerie, oui. La seule que j'ai dans ma petite municipalité, je vais voir sur ma petite liste, ah oh, fuck, elle respecte pas les critères, ben là je fais quoi?
Ben tu vas acheter ta pelle ailleurs.
OK, fait que là, faut que je revérifie dans la municipalité d'à côté. Ah merde, elle respecte pas. OK, dans l'autre municipalité, OK, c'est bon. Roger! Va me chercher à appel à 90 km avec le truck!
C'est presque
ou paye ça. Les frais de livraison!
Puis tu sais, plus loin que ça, tu t'en vas t'acheter une pelle à la quincaillerie du coin, mettons, au mois de juin.
Ouais.
Là, tu retournes t'en acheter une au mois de juillet. Mm-hmm. Va falloir que tu retournes dans la petite liste.
Vérifier.
Parce que c'est pas parce qu'elle était conforme au mois de juin qu'il n'y a pas eu des nouveaux employés qui parlent pas nécessairement français. Puis là, ce qu'il m'expliquait, M. Palin, c'est en plus, si jamais il y a un employé qui se trompe, ben ça peut ouvrir la porte à certains scénarios complexes s'il y a des plaintes reliées à ça.
Donc, c'est-à-dire que pour une simple petite achat, ben un concurrent pourrait faire une plainte à l'Autorité des marchés publics, pourrait faire une plainte à l'Office de langue française. Et là, tout un processus administratif va suivre finalement et d'enquête probablement, etc. La municipalité va vouloir qu'elle corrige le tir. Imaginez le temps, l'argent pour être au bénéfice des citoyens qui vont être mis sur un dossier pour un faible achat. T'sais. C'est pas à la municipalité à faire la police dans cet égard-là.
Pour une pelle à 10 piastres, puis il finit en disant c'est pas à la municipalité de faire la police. Écoute bien, Charles Milliard, il était justement dans cette thématique-là tout à l'heure lorsqu'il a commenté sur le dossier. À ta minute, j'avais pas sorti le bon extrait. Et voilà,
je suis deux en deux avec M. Plamondon ce matin parce que je suis content qu'il pense la même chose que moi. C'est une aberration de mettre un autre fardeau de la preuve sur les municipalités. Ce gouvernement-là, quand ce n'est pas les entrepreneurs qui traînent dans la boue, là, c'est rendu les municipalités. Et pourtant, Mme Fréchette a fait des grands discours à l'Union des municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités dans les deux dernières semaines, là, pas dans les huit dernières années, pour aller dire qu'ils allaient réduire le fardeau des administratifs. On sait très bien que pour des grandes villes comme Québec et Montréal, ça pourrait vouloir dire plusieurs dizaines de personnes à embaucher pour faire ces vérifications-là. Ça n'a absolument aucun sens. C'est risible.
Il y a tellement raison. C'est au gouvernement à faire en sorte que les entreprises respectent la loi 101. C'est pas aux municipalités à s'ajouter de l'administration pour pas justement recevoir une plainte par la tête. Ça n'a aucun sens. Pour une pelle à 10 piastres.
Non, mais c'est ça, c'est ridicule.
Tu sais, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, là, qu'on écrit par texto, continue à réagir, 418-971-1021?
Puis au printemps 2023, les municipalités ont mis de pression sur le gouvernement en disant, là, c'est ridicule. Mm-hmm. Peu importe l'achat qu'on veut effectuer, on achète quelque chose à 2 $, faut qu'on prenne le temps d'aller vérifier la liste ou appeler l'employé qui a accès à la liste pour faire cet achat-là. Ouais. On perd du temps. Le gouvernement a dit, vous avez raison, on vous met une exception à la règle. Puis là, on arrive 3 ans plus tard, puis le gouvernement dit, ah, finalement, ben, cette exception-là a fini aujourd'hui, puis on va pas la renouveler.
Du grand n'importe quoi de la CAQ. On écoute Paul Saint-Pierre Plamondon, qui normalement, s'il y en a bien un qui devrait être pour toutes les petites virgules de la loi 101, ben c'est le PQ. PQ prône pour la souveraineté du Québec.
Avec la loi 101, est-ce qu'on va trop loin?
Bien, sur celle-là, oui. Là, ce que la CAQ est en train de faire, c'est mettre sur les épaules des villes le soin de faire appliquer une loi au moment d'acheter des vis ou un débouche-toilette. C'est ça, la vérité. Et ce ne sont pas les villes, les particuliers, qui sont en charge dans une société de faire appliquer la loi.
Hey, sont-tu mauvais? Autant les fédéralistes que les souverainistes sont contre cet amendement-là à la loi, là, je vais l'appeler comme ça. Ont-tu mauvais, CAQ?
Puis... voulez-vous entendre la meilleure,
okay, ah,
dans toute cette histoire-là?
Vas-y.
On a envoyé une nouvelle directive du côté du ministère, justement, qu'on a envoyée aux municipalités.
Mm-hmm.
OK? Pour envoyer cette directive-là,
ouais.
On a, pour dire, vous devez avoir des commerces qui respectent la loi 101 pour tout achat, on a utilisé un logiciel anglophone. Donc, dans le courriel...
OK, attends une minute, là. Loi 101,
oui.
Protection du français.
Oui.
On n'est pas foutu d'avoir un logiciel en français. On l'utilise en anglais.
Non, fait que dans le courriel où qui dit aux municipalités, « Hey, à partir de maintenant, vous devez acheter dans les commerces qui respectent la loi 101. » Au lieu d'être objet en haut dans le courriel, c'est subject en anglais. C'est May 29.
Tu veux rire de moi?
Je te niaise pas. Monsieur Padin m'expliquait que dans le courriel aussi, il était marqué « Do you want to unsubscribe? » au lieu de « Est-ce que vous voulez vous abonner à cette infolettre-là? » C'était « Unsubscribe ». Donc, toutes les consignes, le logiciel était en anglais. Donc, le gouvernement du Québec, le ministère de la langue française met pression sur les employés municipaux pour que chaque achat soit vérifié dans une liste d'entreprises qui respectent la loi 101. Puis pour le faire, on envoie le courriel avec des informations en anglais à l'aide d'un logiciel anglophone.
Parce que le ridicule ne tue pas, mon cher Mathias.
Parce
que
c'est
sinon, 100% logique, la CAQ se serait auto-sabotée. Éric qui nous écrit par texto. Est-ce que Calinette peut faire un bon ménage à l'Office de la langue française?
Mais non!
coûte plus cher, un autre auditeur auditrice nous écrit, coûte plus cher en temps vérifié que le prix de l'item.
Oui.
En effet, fait que ça n'a aucun sens. C'est quand ta règle administrative fait en sorte que ça va coûter plus cher à la municipalité, que ça chute, là, je reviens avec le même exemple, l'appel à 10$. Stéphane qui dit, hey, checkez bien ça, pour les projets, les grands projets comme le tramway, je vous parie qu'il va avoir une exception pour eux. Très d'accord avec toi, mon Stéphane. Donc, c'est ça, ça n'a aucun sens, continuer à interagir. Mais souviens-toi, Mathias, c'est toi qui m'as fait penser à ça avant l'émission. Ça nous rappelle, ça, justement, que, hey, les municipalités, le gouvernement, c'est pas de leur faute.
Vous avez raison, madame. On paye beaucoup d'impôts. On paye toutes sortes de taxes. Ça coûte cher. Il faut payer. Le monde dit qu'il y en a jusque-là. Malheureusement, il faut payer parce que nos enfants si on ne fait rien et vos enfants, vous êtes jeunes,
ouais.
Vos enfants
pas accès à l'eau.
N'auront pas d'eau. C'est ça le défi. On n'a pas le choix. Ou pas on arrête choix. De faire autre chose auquel on tient, ou on paye.
Ou on arrête de faire autre chose auquel on tient, c'est-à-dire fuck-aller municipalité pour un achat à 10$.
Mais non, c'est pertinent.
Ou on paye.
Voyons, ça, c'est des choses extrêmement pertinentes qui demandent de taxer ouais. davantage pour qu'on puisse se permettre de faire ces choses-là, Jeff.
Puis après ça, ils viennent se demander pourquoi on n'est pas fâché quand on est taxé davantage. Non, non, mais c'est vrai.
Mais non, mais
c'est... On a des affaires de même de « je vais protéger la langue française en demandant aux municipalités de faire toutes les vérifications requises avant de faire un achat à 5, 10 ou 15 piastres. Ça va coûter plus cher à l'administration. » Puis après ça, on va dire aux municipalités « hey, ça n'a pas d'allure, vous taxez plus que l'inflation. »
Puis là, t'imagines-tu la multiplication... Tu sais, quand on dit que la machine se nourrit entre elles, la multiplication de la bureaucratie que ça va créer, faut envoyer la liste aux municipalités. Les municipalités doivent s'assurer d'avoir la liste mm-hmm. à jour. Par la suite, d'avoir quelqu'un qui peut communiquer la liste ouais. aux autres employés. Les employés perdent leur temps à vérifier la liste. Si jamais un employé achète une pelle qui n'est pas dans un magasin qui est dans la liste, mais là, on va avoir une plainte à l'Office québécoise de la langue française qui va devoir faire une enquête pour s'assurer qu'on respecte bien l'encadrement de cette liste-là.
T'es-tu en train de me refaire le film des 12 travaux d'Astérix?
Non, mais tu sais,
ben, Pascal, on se rend-tu compte à quel point c'est ridicule? Ah oui, Pascal nous écrit par texto, ça prend un employé à temps plein. Non, avec ce que Mathias vient de m'expliquer, Pascal, ça va en prendre 3. Puis d'ailleurs, Charles Milliard le disait, c'est des dizaines d'employés additionnels pour des grosses villes comme Québec ou Montréal. À la base, si l'interface utilisateur est en anglais, le logiciel n'aurait pas dû être acheté. Très d'accord avec cet auditeur et cette auditrice-là. Mathias, merci pour ce bijou. Ça va nous faire penser tout le temps que quand on va dire « Ah ouais, pas le choix de taxer, pas le choix d'aller chercher dans vos poches, chers citoyens, qui en avez déjà plus dans vos poches », bien, ça va nous faire penser à quel point le gouvernement est d'une lourdeur administrative épouvantable pour des peccadilles.
Ben, je pense que ça résume bien la chose.
Ah oui.
Dans le sens, n'importe quel... Les municipalités disent que c'est ridicule. Les partis de l'opposition disent que c'est ridicule. La CAQ disait elle-même que c'était ridicule en 2023. Je comprends pas pourquoi on n'est pas capable de changer des choses comme ça. Hey, j'espère qu'au moins, là, maintenant que la lumière brille un peu partout puis qu'on lance l'appel du côté de l'opposition et du côté des municipalités, ouais. on va se rétracter puis on va remettre l'exception à 5 000 $.
On tombe en campagne électorale. Il y a plusieurs partis politiques déjà, comme la CAQ l'avait fait à l'époque, qui ont dit on va réduire l'administratif, on va réduire la fonction publique, entre autres le Parti conservateur du Québec et le PQ. Ben maintenant, gang, embarquez tout dans ce bandwagon-là et faites-le. Ça presse, on dépense des coûts pour rien au Québec. Hey, il faut respecter la langue française à coût de dizaines d'employés pour un achat à 5 $. On aura tout vu parce que le ridicule ne tue pas. Parce que le ridicule ne tue pas, Mathias, on va parler après la pause du fait que, quand on a eu une bonne idée hein, avec les travaux du tramway.
Oui.
Rentrée universitaire, c'est jamais bloqué à rentrée scolaire de l'automne, les routes. Puis on s'est dit, quand? On va mettre des travaux de tramway à proximité de l'université.
À rentrée universitaire.
Quelle idée de génie! On vous en parle après cette courte pause. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101, c'est l'émission En Jase. Votre émission d'actualité du midi. Va suivre le retour de Gravel avec Denis, Véro et Audrey de 14h à 18h et Marceau le soir de 18h. À 19h. Mathias, jamais tu fais des travaux chez vous. Puis il faut que tu arraches le toit.
Oui.
Vas-tu arracher ça en été ou en hiver à moins 30?
Moi, je pense que le moment précis que je choisirais, c'est fin novembre, début décembre,
ouais,
directement hein? au début de l'hiver.
Ouais, période de gel, ouais. dégel, avoir un petit peu de neige qui tombe.
Exact. Ça va faire une petite ambiance
déjà.
Dans ma maison.
Ouais. C'est vrai, ça pourrait faire une ambiance de Noël.
Ben oui.
T'as raison, t'as créé un petit peu plus de travaux en plus, dépenser plus d'argent, avoir un petit peu plus de tracas. Donc, c'est une excellente idée que tu as parce que cette idée-là, j'imagine que tu l'as donnée à CDPQ Infra à la Ville de Québec.
Du moins, si c'est pas moi qui l'a donné, il semble penser de la même manière que moi.
Exactement, parce que croyez-le ou non, après avoir détourné les parcours d'autobus à compter du 21 mars, qu'on aurait pu détourner juste en août ou fin juillet après le Festival d'été de Québec, mais j'imagine que deux semaines de vacances à construction après, fait que ça va commencer en août. Mais on a détourné ça le 21 mars parce qu'on s'est dit faut que les gens s'habituent.
Ben oui. Hey, comme ça, on est sûr important. Que les gens sont prêts.
Les gens vont s'habituer pendant 5 mois. C'est important. Eh bien là, il y a un moment fort pour la circulation à Québec, puis c'est dans le sondage d'hier en plus. Les gens trouvent qu'il y a de plus en plus de congestion à Québec. Et oui, c'est vrai, il y a de plus en plus de congestion, je le constate. Je vis à Québec depuis ma tendre enfance. Mais là, on a eu l'idée brillante, à la rentrée scolaire, de planifier les travaux souterrains du tramway entre l'Université Laval et l'avenue Hollande. Ça va commencer début septembre, alors que les travaux lourds pour la portion entre les avenues Belvédère et Hollande, eux, sont prévus à partir de 2027. On ne pouvait pas faire le contraire.
Inverser des deux.
Peut-être faire en sorte que la rentrée scolaire, où il y a toujours plein de chars, plein de congestion, plein de monde qui panique, se passe quand même relativement bien.
Ou du moins, timer tout pour que ce soit ouais,
c'est ça.
Avant.
On n'aurait pas pu faire en août, on n'aurait pas pu faire à partir de novembre.
Directement, début ouais. septembre. Tu sais, la rentrée universitaire, c'est début septembre aussi. On est timé parfaitement. On commence ses travaux pour le tramway dans le secteur de l'Université Laval sur René Lévesque. Précisément, à ce moment-là, je veux dire, si on avait pu choisir le pire... Si on se serait demandé, c'est quand le pire moment de l'année pour débuter les travaux sur René Lévesque à côté de l'Université ouais. Laval, ça aurait été la première semaine de septembre. C'est exactement cette semaine-là qu'on les débute.
On fait-tu exprès pour que le tramway soit pas populaire? T'es le tramway, il y a 36 % d'adhésion. Puis 418-971-1021, si vous voulez interagir avec nous. Avec ça, il va chuter à 25 %. Et pourtant, c'est les apôtres du tramway qui planifient ces travaux-là.
Puis le pire, c'est que là, les étudiants dans le secteur, à la limite, ils vont aller à marche. Mais tous les étudiants en dehors du secteur, ça va être un beau bordel.
Ça va être un bordel total. Les autobus.
Les autobus, le monde qui vont vouloir se déplacer vers le centre-ville à partir de là.
Mais oui.
Ça va être le bordel. Parce qu'un autre point aussi, parce que c'est CDPQ.
Là, tu vas en arriver avec René Lévesque ouais, là, dans ton ça. Autre point. Ouais, c'est super bien pensé, ça aussi. Vas-y.
CDPQ Infra a annoncé un peu plus de détails dans leur calendrier concernant leurs travaux préparatoires sur René Lévesque hier. Puis ce qu'on apprenait, c'est qu'à partir justement de début septembre, c'est 1,2 km sur les 4,2 km de René Lévesque qui vont être touchés. Donc là, on en a parlé, c'est de l'Université Laval jusqu'à Avenue Holland. Donc là, la réflexion qui se fait, c'est « OK, fait que René Lévesque va être fermé dans ce secteur-là puis ouvert exactement. Dans le reste du tronçon. » On nous annonce que René Lévesque au grand complet sera circulation locale seulement.
Oui, sur un tronçon de 4,2 km.
Alors que les travaux sont seulement sur 1,2 km. Celle-là, je la comprends pas.
Ben ça, c'est pour que les gens s'habituent. Parce qu'en 2027, Mathias, ça va être les 3 km suivants. Fait que là, il faut que les gens soient habitués.
Il faut que les gens s'habituent à prendre Sainte-Foy, Grande-Allée, Charest, Champlain. Mais la réflexion, justement, à partir de 2027, on va avoir René Lévesque fermé au grand complet. Fait qu'en attendant qu'on aille juste 1,2 km sur les 4,2 de fermé, ouais. on peut-tu laisser un peu de répit aux gens pour la dernière automne où René Lévesque va être fermé, va être ouvert presque au grand complet? Ouais. On ferme une partie puis on dit « Ah ben, par contre, le tronçon complet, on va le mettre en circulation locale seulement. Je veux dire, le trafic va passer quand même. Là. Je sais pas à quoi ils s'attendent, mais le monde va continuer de passer là si les travaux sont juste au début du tronçon.
Ben, c'est clair. Puis d'ailleurs, c'est ce que le président du conseil de quartier mentionne, M. Bertrand Gemme, en disant « Ben, je comprends pas pourquoi qu'on fait ça, c'est le conseil de quartier Saint-Sacrement. » Et il invite les gens de CTBQ Infra à participer aux rencontres du conseil de quartier pour répondre aux questions des résidents, parce que les résidents disent « Pourquoi ça va être fermé sur 3 km additionnels quand l'asphalte va être là et qu'il n'y aura aucun travailleur? » Puis là, j'espère donc qu'ils sont en voie de se poser la question. Et on comprend qu'en plus d'une très, 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 très mauvaise planification des travaux, ben, il y a encore des problèmes de communication parce que les résidents, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont devant le fait accompli.
Puis ils comprennent pas.
Puis ils comprennent pas pourquoi.
Tu sais, on a aucun... Tu lis les articles, tu lis les communiqués de CDPQ Infra, on n'a aucune explication claire de pourquoi on prend la décision de justement fermer circulation locale de René Lévesque seulement. Tu sais, pour ce qui est des travaux début septembre, de ce qu'on comprend, c'est parce que les travaux de préparation aux travaux, ils ont pris plusieurs mois.
C'est ça.
Mais est-ce qu'on aurait pu... Tu sais, on sait que le tramway s'en vient depuis longtemps maintenant. Est-ce qu'on n'aurait pas pu se prévoir pour commencer ça en août,
ben,
par exemple,
clair.
Avoir un mois avant?
C'est
ou à
sûr!
Limite, débuter ça un mois en retard.
Ben, débute-le en octobre!
Tu sais, c'est ça. Quitte à dire, hey, la rentrée universitaire va passer.
Ben oui.
Les étudiants vont lâcher leurs cours parce que...
Oui, puis là, il y en a que ça va devenir à distance aussi, des travaux d'équipe,
c'est
etc.
Ça arrive tout le temps, ça. Le pire oui. moment, là, en circulation, c'est tout le temps la rentrée des cours parce que
exactement.
Le monde va aux cours, ce qui n'est pas oui. nécessairement le cas plus tard dans la session. Il y a du monde qui lâche au cours de la session
ben oui.
aussi.
Puis tu es dans le même secteur, là, on parle d'Université Laval, mais il y a Cégep Sainte-Foy, Cégep Garneau. Donc là, tu es à un moment donné, la circulation arrête d'être alourdie. Les gens se planifient aussi différemment. Il y a toujours ce fameux mois d'adaptation-là. Je la comprends vraiment pas. Un auditeur qui nous écrit, coudonc, ils ont-tu engagé un spécialiste en emmerdement stratégique? Hein, ça a l'air à ça.
Tu sais, pour vrai, là, le financement du fédéral va être annoncé à 15h. Puis
oui.
Tu en as parlé, puis je pense aussi... C'est une bonne chose. On va enfin arrêter d'entendre parler de ce fameux financement-là. Le projet va de l'avant aussi, puis il faut l'accepter. Puis c'est correct, il faut en faire des projets du côté de la Ville de Québec. Reste que quand on nous met au fait accompli comme ça devant des planifications de travaux qui semblent avoir des lacunes majeures comme ça, mais crime, ça emmène ouais. beaucoup de questionnements. Puis on se dit, crime, mais y a-t-il un problème dans la planification?
C'est
Est-ce
ça.
Qu'on a... pas conscience de la réalité sur le terrain que les gens vivent en se déplaçant à travers la ville?
Exactement. C'est pas parce que t'as le go maintenant des gouvernements pour faire un projet qui est impopulaire, mais dont une partie de la population, comme moi, dit « Ben, coudonc, il va se faire, puis là, ben, à un moment donné, il faut en réaliser un projet. » T'as pas carte blanche pour faire n'importe quoi. Puis ça, c'est du grand n'importe quoi. Hey, planifier des travaux en pleine rentrée scolaire dans le secteur de l'université au mois de septembre, fermer un boulevard urbain où il y a beaucoup de circulation sur 3 km où il n'y aura pas de travaux, où l'asphalte va être circulable.
C'est difficile à comprendre, puis tu as comme l'impression qu'ils sont déconnectés du pouls de la population en termes de déplacement, en termes
ouais.
Écoute, j'ai hâte de voir les explications, surtout pour le René Lévesque qui va être fermé au transit, parce que ça, je comprends
pas, je
du,
comprends
tout,
pas
la
du tout
la logique.
À souhaiter qu'on va revenir sur notre décision. Hey, je vais juste prendre 2 minutes pour te parler d'une dernière chose,
ouais.
Mathias. T'aimes-tu ça comme moi, les annonces pour faire des annonces?
C'est tannant, puis malheureusement, il y en a beaucoup trop en politique.
Ben c'est ça. Parce que je t'explique. Moi, hier, j'étais super emballé. Je ouais. me disais, OK, à 14h, on va annoncer des investissements majeurs pour Saint-Roch. 1000 étudiants qui vont prendre la place. On va annoncer des nouvelles tours avec des logements étudiants. On va nous dire ça va être quoi les pavillons. Voici Saint-Roch revampé avec un échéancier. Mais finalement, on dit à la conférence, « Ouais, on va investir 100 millions, puis oui. » Mais tout ce qu'on a annoncé de concret, c'est l'étape du chargé de projet, de la planification du projet, qui va coûter 625 000 à l'Université du Québec, dont 187 500 proviennent du secrétariat de la capitale nationale. Fait qu'hier, on a fait une annonce pour dire, « Savez-vous quoi? On a une idée, puis on va la travailler. » On n'a pas fait d'annonce en disant « la tour va être là, telle affaire va être là, c'est comme ça que ça va fonctionner. Regardez, justement, là, ça va nous faire une mixité avec les itinérants. Hey, savez-vous quoi? By the way, on a pensé à un autre organisme pour les itinérants qui va être installé là, justement. » Non, on a annoncé qu'on réfléchissait à quelque chose.
Puis en plus, avec le gouvernement de la CAQ, s'il y a bien un gouvernement qui m'annonce de quoi en disant « hey, on pense à un projet, ça va être un bon projet, on va le réaliser éventuellement »,
Tu penses à un troisième lien?
Ouais, ça me donne pas ben confiance. Ben, de dire, hey, on a eu une excellente idée, on va mettre en place potentiellement cette idée-là. Quand tu as un gouvernement qui a fait beaucoup de promesses puis qui en a réalisé pas la majorité, mm-hmm. ben, tu as tendance à te dire, ouais, au final, on a annoncé ça puis on va jamais rien faire avec tout ça. Là.
Ben, c'est ça. T'sais, moi, je suis pour vraiment qu'on revampe Saint-Roch. Vous savez comment j'ai à cœur le quartier Saint-Roch. Je suis un petit gars de Saint-Sauveur, juste à côté. Je veux que notre centre-ville soit vivant. Je veux que notre centre-ville soit beau. Mais là, arrivez-moi avec quelque chose de concret.
Quelque chose de réel, pas juste une annonce pour prendre des belles photos.
Bien, c'est ça, parce que qui me dit qu'après que le chargé de projet ait travaillé là-dessus pendant 2, 3, 4 ans, il va vraiment avoir quelque chose de réel qui va être dégagé.
Puis on va avoir changé de gouvernement en plus. Jeff, regarde, je vais te nommer quelque chose de concret. qui est ressorti de cette annonce-là. Tu sais, le campement d'itinérants qu'on avait parlé au parc Jean-Paul d'Allier.
Ouais, comme par magie, t'es plus là. Hein?
Ouais, cette semaine, il était débarrassé.
Ouais. Ah, c'est-tu parce qu'on faisait l'annonce à côté?
Ben, selon Bruno Marchand, pas du tout. Là. Mm-hmm. Il y a même, puis je vais le citer, ce qui s'est passé, c'est pas en lien avec la conférence d'aujourd'hui. Je ne veux pas que les gens entendent que parce qu'il y avait un événement aujourd'hui, ce travail-là a été fait. Donc, on dit que ça n'a aucun lien. Sauf que le campement itinérant au parc Jean-Paul d'Allier était en face de l'annonce.
C'est ça, exactement.
Puis ça a été réglé sensiblement la journée même, slash la veille de l'annonce.
En plein ça. Notre collègue Yannick Marceau nous disait que les personnes itinérantes s'étaient retrouvées sous les bretelles de l'autoroute Dufresne. Aujourd'hui, il est passé par là. Il nous disait que ça a été démantelé aussi. Mais t'es au-delà de démanteler les campements, il faut trouver des alternatives, aussi. Des pistes de solutions. Parce que sinon, on va juste démanteler des campements par-dessus campements. Et cette alternative-là, on l'a. On s'est donné les moyens légaux. C'est le projet de loi 38, le renforcement, où on peut prendre quelqu'un, l'amener dans un hôpital psychiatrique, l'amener dans un endroit sécuritaire pour lui, pour justement prendre soin. Il va falloir commencer à l'utiliser parce que sinon, on va juste tantôt en dessous de l'autoroute Dufresne, tantôt au parc Jean-Paul Lallier, tantôt au parc Saint-Roch, on va juste faire du déplacement. Mathias, on fait une courte pause et par la suite, on s'informe. On informe nos auditeurs avec les principales manchettes de l'actualité. Ça te convient?
Yes, sir.
C'est ce qui s'en vient à l'émission. On en jase.
On en jase. Boulevard 102.1.
13h37. Merci d'être à l'écoute de l'émission On en jase sur Boulevard 102. On adore faire cette émission avec vous. Jeff Fortin et Mathias Turcotte jusqu'à 14h. Denis Gravel, Audrey Pinchot et Véro Bergeron dans le retour de Gravel à compter de 14h jusqu'à 18h. Et par la suite, c'est Marceau le soir. À la météo, 22 degrés présentement, alternant soleil et nuages. Je vous dirais que c'est un couvert nuageux présentement sur Québec. 26 degrés ensoleillés pour demain. 25 degrés alternance de soleil et nuages pour jeudi. 26 degrés alternance de soleil et nuages pour vendredi. Ça me fait penser à mon gars de 18 ans qui a fini le cégep puis qui dit « Hey, ben, c'est-tu quoi? On va travailler 20 heures par semaine puis je vais aller jouer au golf. » Mais qu'est mon beau Elliot? T'as une semaine de golf devant toi qui t'attend.
Ah, ça, c'est trippant. Hein? Quand t'es, moi, ça fait pas si longtemps que ça.
Ben non, c'est ça.
Quand on arrivait aux vacances d'été, je travaillais dans un camp de jour. Fait que j'avais, quand j'étais au cégep, j'avais, mettons, ma première année, là, t'as tout le temps un mois entre la fin du cégep et le début du camp de jour. Hey, j'en profitais en maudit. Là. Des belles journées d'été et tout. Des tripes de jeunes. Hein.
Exactement. Mathias, est-ce que j'ai vu Sol Zanetti pleurer à l'Assemblée nationale?
Oui. Ah, ben, ouais, ça ressemble à ça. Là.
On va aller écouter voir cette petite période émotive.
Clairement, faire des immigrants les boucs émissaires, là, ça nuit et ça crée des préjugés. Moi, j'ai entendu des témoignages de parents dont les enfants dont les enfants issus de l'immigration se font dire à l'école des choses qu'ils ont entendues ailleurs. Sur ça, sur le fait que les immigrants sont responsables de la crise du logement, puis le fait qu'un tel n'a pas trouvé de logement, puis c'est parce qu'il y a trop d'immigrants. Vous rendez-vous compte? La violence.
Pourquoi vous êtes ému comme ça?
C'est touchant. Je sais pas.
Vécu personnellement, est-ce que...
Non, pas tant. Mon père, un petit peu, pas beaucoup. Mais les enfants à l'école, ils n'ont rien demandé. Et quand ils reprennent les préjugés qu'ils ont entendus après ça, parce qu'il y a des politiciens qui ont dit des choses qui n'étaient pas vraies, ça me brise le cœur.
Donc, à la question qui allait faire de la récupération politique en premier sur les incidents à Shawinigan, on a la réponse. Québec solidaire et Sol Zanetti en larmes. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est aussi simple que ça. Les Québec solidaire, il y avait un piège à ours devant eux, sont tombés directement dedans. Ce n'est pas vrai que de dire qu'on a un problème d'immigration massive, qu'on doit revoir les seuils d'immigration parce que, oui, ça cause une crise au logement. C'est un des facteurs. Ce n'est pas le facteur unique, mais c'est un des facteurs. Même principe pour ce qui est de l'accès dans les écoles, les hôpitaux, les services de garde. C'est pas raciste. Ce n'est pas faire du racisme. Les gens qui se promènent avec une pancarte, je me souviens d'un Québec blanc
Ça, c'est raciste.
Eux sont racistes. Eux en ont contre les immigrants. Les gens qui écrivent sur un muret de la ville de Québec, « Maudits musulmans, on vous haït, retournez chez vous, décalissez. » Ça, c'est du racisme. Mais de prôner pour des politiques d'intégration et des politiques d'immigration qui vont être davantage en adhésion avec nos valeurs et notre capacité d'accueil, ce n'est pas du racisme. M. Zanetti est complètement dans le champ.
Et Dôme qui écrit « Boba, il pousse, mes pouces s'égalent, puis j'ai pas le choix d'être d'accord avec lui, d'accuser des gestes racistes, d'accuser d'autres enfants qui intimident des enfants sur leur couleur à l'école, puis dire que c'est de la faute des politiciens. » Mais voyons donc, là, on n'a pas de parti raciste d'extrême droite. On n'a pas de parti nazi. Des gestes inacceptables dans notre société, je veux dire, je trouve que c'est un discours bas de dire que c'est de la faute des autres partis politiques. J'aurais aimé ça en voir plus de QS sur ce dossier-là.
Exactement, c'est du grand Québec solidaire avec le dossier de l'immigration où on tente de faire complètement bande à part, on tente vraiment de démoniser le PQ, alors que Québec solidaire et le PQ, qui vise la souveraineté du Québec, auraient intérêt à s'associer ensemble. Mais tu sais, comment tu veux t'associer avec ça si t'es le PQ? Tu peux pas.
Tu sais, je veux dire, au lieu d'avoir une base politique unie, prêt à défendre les Québécois, prêt à critiquer les propos racistes, c'est ça qu'on aurait dû avoir, une Assemblée nationale unie. Mais là, d'avoir un parti qui commence à cracher sur d'autres partis en disant « c'est de leur faute s'il y a du racisme ».
Ben non, exactement. Seigneur. Puis vous voyez, justement, on va écouter, parce que t'es Paul Saint-Pierre Plamondon, ça serait facile pour lui de dire « ça n'a pas d'allure ce que QS fait », mais on va réécouter le petit 15 secondes de Charles Milliard à propos de ce qui s'est produit à Shawinigan.
Facile pour moi de commencer un procès, je n'embarquerai pas là-dedans. Je pense que Mme Fréchette a condamné ça, M. Plamondon, Mme Gazal, moi, M. Duhaime. C'est grand bien, puis que ça nous serve de leçon sur l'importance de hausser le discours, d'élever le débat dans les 130 prochains jours qui vont nous mener à la prochaine campagne électorale.
Voici la réaction, Charles Milliard. Ce serait facile de faire de la petite politique, mais je le ferai pas parce que ce qu'il faut, c'est être uni et unanime contre le racisme. Félicitations, M. Milliard. Puis comme Rémi Nadeau fait dans ses chroniques du samedi avec les pouces en l'air, les pouces en bas, bien, gros pouce en bas rouge pour Sol Zanetti et son théâtre d'été où je pleure les enfants d'immigrants.
Un périmètre de sécurité a été mis en place du côté de Saint-Nicolas à Lévis. On a retrouvé des ossements qui appartiendraient à une main humaine sur, dans le fond, à terre. Là, c'est un marcheur, un passant qui a fait la surprenante découverte sur un terrain vague à proximité du chemin Olivier que nous rapporte le Journal de Québec. On a très peu d'informations pour l'instant, mais du côté du service de police de la ville de Lévis, on ne veut pas prendre de chance et sécuriser le périmètre le plus rapidement possible. Un joueur de deck qui a sauvagement agressé un arbitre a reçu une peine de détention ferme de 12 mois. C'est en juillet 2024 que Kevin Bilodeau a frappé un arbitre à la tête et au torse, causant mâchoire fracturée, des traumatismes crânio-cérébrales. Finalement, il aura 12 mois à purger. La juge qui voulait en faire une peine exemplaire. Décès malheureux de la fillette de 3 ans qui s'était fait emporter dans le jeu gonflable dimanche du côté de Montréal. C'est le bureau du coroner qui nous a appris la triste nouvelle ce matin. Toutes nos pensées vont bien sûr avec les proches de cette fillette-là. Tout un drame du côté de l'arrondissement de la salle à Montréal. Je vous parle du Canada parce que le ministre Dominique Leblanc, qui est responsable du commerce Canada-États-Unis, est présentement du côté de nos voisins du Sud pour le début des négociations accord Canada-États-Unis-Mexique. Et dans une lettre envoyée hier, en fait, qui a été rendue disponible aujourd'hui, Dominique Leblanc demandait aux États-Unis et au Mexique de renouveler l'accord le plus rapidement possible pour une période de 16 ans au total. C'est sûr que la journée d'aujourd'hui va être importante dans ce dossier-là. J'en profite pour rappeler que le président américain Donald Trump a fait allusion au 51e État américain sur son Truth Social hier soir. C'était la première fois depuis plusieurs mois qu'il le faisait. Et je finis en terminant, en rappelant qu'à 15h, une annonce de Christine Fréchette et de Mark Carney aura lieu du côté de Longueuil, notamment pour parler du fameux fonds pour le transport en commun du Canada, que le Québec et le Canada se seraient finalement entendus pour un montant avoisinant 6 milliards de dollars, dont 2,75 milliards pour le financement du tramway, ce qui porterait la contribution fédérale à un total de 36 % dans le projet.
Mathias, es-tu dedans?
They're on the verge of doing something they've dreamt about their entire lifetime.
The silver trophy to the Golden Knights!
Devastation.
Just the heartbreak for the players.
Ladies and gentlemen, the Stanley Cup!
On parle de la finale de la Coupe Stanley après cette courte pause avec Alex Laramé.
Cèdre pour vos projets extérieurs? Le cèdre de l'Ouest et le cèdre du Québec sont en vedette chez Limaco. Particulier ou entrepreneur, Limaco a un vaste choix de cèdres à très bon prix. Limaco, spécialiste en vente de bois depuis plus de 25 ans. Limaco.ca.
C'est pas pour rien qu'Abba, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez Abba, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. Abbaextermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. Abba, une solution définitive.
Quoi de mieux qu'une belle soirée d'été entre collègues et amis au Stade Canac. Les Capitales sont en action toute la semaine. Il reste des billets pour chaque soir. La nourriture et les breuvages non alcoolisés sont à 3 $ taxes incluses. Et les billets à partir de 14 $. Parce que les Capitales, c'est plus qu'accessible. Billets à capitaldequebec.com.
Après la collection Dumplings classiques, les Dumplings Fusion débarquent chez Tyson. Mac and cheese, kimchi, porc, cornichon et aile de poulet buffalo. Wow! Trois saveurs fusion audacieuses et délicieuses. Pour vos envies de dumplings, ça se passe chez Tyson.
Avant de passer au garage, n'oubliez pas de passer chez Pièces d'Auto Extra. On dit que les pièces sont jusqu'à 2 fois moins chères qu'ailleurs. Manquez pas ça. Pièces d'Auto Extra, Saint-Émile, Amel et Beauport. Piècesautoextra.com.
Le 1er juillet approche et vous n'avez toujours pas trouvé de logement. Vous avez cherché partout et vous ne savez plus quoi faire. Vous pouvez compter sur les services d'aide à la recherche de logement des offices d'habitation. Ils sont là pour vous accompagner dans vos recherches. Contactez-les sans tarder. Ce service est gratuit. Pour en savoir plus, visitez québec.ca/recherche-logement. Un message de la Société d'habitation du Québec.
Chez Dino, profitez de 15 % de rabais sur les traitements K9 Prevencia 360 contre les puces pour chiens et chats. Protégez vos animaux. Les puces se multiplient rapidement et causent démangeaisons et infections. Rendez-vous en succursale ou sur dino.ca pour découvrir nos spéciaux du mois.
Jamais j'aurais pensé me retrouver en chaise roulante ou en béquille canadienne pour me déplacer. Là. Jamais, jamais, jamais. Là. Fait que, sincèrement, faites attention. C'est vite arrivé un accident.
En une fraction de seconde, la vie de Sarah Maud a complètement basculé. Le 20 février 2016, sa promenade en motoneige a tourné en catastrophe. Personne ne savait si elle allait survivre. Tout aurait pu s'arrêter pour elle si l'équipe du CHU de Québec, l'Université Laval, ne lui avait pas donné de deuxième chance. Donner pour vivre au fondationduchutequebec.org.
102-1. Chaque message publicitaire que vous entendez à Boulevard 102.1 représente bien plus qu'une simple annonce.
Derrière ces messages, il y a des entreprises d'ici qui investissent dans notre milieu, créent des emplois et contribuent à la vitalité économique de la grande région de Québec.
Encourager les clients de Boulevard 102.1, c'est poser un geste concret d'achat local.
Merci d'encourager nos clients. Merci d'encourager l'achat local. Merci d'encourager Boulevard 102.1.
Béville Climatisation à votre service depuis 1967. Découvrez les thermopompes murales Lennox propulsées par Samsung, ultra silencieuses, intelligentes et conçues pour le confort absolu. Béville, l'excellence tout simplement. Visitez béville.ca.
Cet été, transformez votre cour avec Moreau PRS. Solarium Sun Space, fenêtres 3 saisons, auvent, pergola, rampe, patio et bien plus. Une bonne nouvelle, la nouvelle succursale de Lévis est maintenant ouverte. MoreauPRS.com. Ce segment d'émission présenté par Winman Entretien de pelouse. Chez Winman, chaque programme est personnalisé pour votre terrain. Pour une pelouse dense, verte et en santé tout l'été.
On en jase. Le show que tu commences au bureau, que tu poursuis à la commande à l'auto, puis que tu finis jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
13h50, l'émission On en jase. On va terminer ça en sport comme on le fait très régulièrement. avec Alex Laramé, notre chroniqueur sportif et journaliste au 99.5 Montréal. Alex, comment vas-tu?
En pleine forme, belle journée ensoleillée à Montréal, on aime ça.
Alex, Mathias, êtes-vous des crinqués comme moi? Allez-vous écouter quand même la finale de la Coupe Stanley? Parce que moi, ce soir, 20h, je suis assis devant ma télé. Je trouve que c'est deux bonnes formations, les Golden Knights de Vegas et les Hurricanes de la Caroline. Ça m'intéresse pour deux histoires personnelles, soit celle de Mitch Marner, qui a longuement été critiqué à Toronto et là, qui atteint la finale de la Coupe Stanley sa première année à Vegas. Et moi, coach Rod Brind'Amour, qui a gagné la Coupe Stanley comme joueur avec les Hurricanes. Dans les 100 dernières victoires en série des Hurricanes de la Caroline, Rod Brind'Amour a participé à 98, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur. C'est exceptionnel. Il n'a pas encore levé la Coupe Stanley comme coach. Je trouve qu'il le mériterait. Donc, c'est les deux histoires que je vais suivre. Vous allez vous suivre ça à la finale de la Coupe Stanley?
Ben, écoute, de mon côté, c'est sûr, je vais regarder ça, là, mais je te mentirais si je te disais que je vais écouter toutes les games de A à Z. Là. Je vais faire mon mea culpa. Je déteste les Golden Knights. Là, moi, cette organisation-là, depuis qu'elle est dans la Ligue, je ne suis pas capable. Leur manière de
comment
gérer ça.
On a-tu déjà triché sur un certain plafond salarial en série?
Ben, ça, je peux le pardonner parce qu'il y a plusieurs équipes qui le font, mais moi, c'est vraiment qu'ils ont eu tout cuit dans le bec avec le repêchage d'expansion. Ils gèrent leur équipe comme si c'était les Yankees de New York. Ils n'ont jamais passé par une période un petit peu plus creuse. Donc, non, moi, j'aime pas les Golden Knights, puis je me range du côté des Hurricanes là, dans cette série-là et du côté de Rob Brind'Amour, définitivement.
Moi, tu vois, je vais pas le suivre de façon aussi assidue que je suivais le Canadien. Je vais écouter.
C'est tout à fait normal.
C'est ça,
là.
Je vais sûrement mettre des parties un peu en arrière puis suivre ça un peu du coin de l'œil, écouter des parties. Quand on va avancer un peu plus dans la série, écouter un peu plus activement des parties. Moi, je suis pas du bord à Alex, par contre. Moi, les Golden Knights, c'était pas nécessairement un club que j'aimais. Par contre, voir Mitch Marner lever la Coupe cette année, gagner le Conn Smythe...
Ça serait fou.
Ça serait... incroyable.
Ça serait tellement fou. Hugo qui écrit que vous êtes des faux fans de hockey, les boys. Il est suivi d'un go nordique, là, mais il a raison. Nous, moi et Hugo, on est des fans de hockey. On va écouter la finale de la Coupe Stanley. Hey, tu parles de Mitch Marner qui pourrait lever la Coupe Stanley et le trophée Conn Smythe. Est-ce que vous vous souvenez ce que Phil Kessel a fait lorsqu'il a remporté la Coupe Stanley?
Ben oui, il est retourné à Toronto aller parader avec la Coupe
exactement.
Dans les rues de la ville reine.
Il s'est payé aussi une publicité d'une page complète dans le Toronto Sun où c'était juste lui avec la Coupe Stanley dans les airs. Et il a fait un don, écoutez bien ça, de 100 000 $ au vendeur d'hot dog qui faisait toujours des hot dogs après le match qui était à proximité de l'aréna pour le remercier pour les années d'hot dog. Bon, Phil Kessel, on voyait qu'il avait mangé un peu d'hot dog, là, je vais me permettre une petite parenthèse. Là. Mais vraiment, si Mitch Marner réussit à lever la Coupe Stanley, puis là, je sais, Alex, toi, ça va te faire plaisir parce que t'es vraiment pas un fan de Toronto. Ouf, ça va être tough pour l'orgueil des Leafs.
Ben, écoute, je pense qu'il est en train de remettre d'en face. Il y a d'ailleurs eu des commentaires, hein, comme quoi il y avait eu des années noires là, dans son parcours de hockey qui faisait directement, on visait directement ces années avec les Maple Leafs. Mais ce qui est drôle en plus, Kessel, c'est que Kessel ne vient pas de Toronto. Là. Mitch Marner, au moins, vient de la région, donc ça va être normal là, si jamais il gagne la Coupe de retourner là-bas. Puis définitivement, ça envoie le message à l'organisation que peut-être que c'était pas Mitch Marner le problème.
Non, exactement. Je crois pas que c'était lui le problème. En tout cas, il a bien performé aux Jeux Olympiques, malgré que le Canada se soit contenté de la médaille d'argent. Là, il performe bien en séries éliminatoires. Moi, j'ai prédit les Golden Knights en 6 pour la seule et unique raison que je trouve que Carter Hart est tellement solide depuis le début des séries que je pense qu'en bout de ligne, ça va pouvoir faire une certaine différence. Il y a une bonne profondeur du côté des deux formations. Toi, Alex, tu y vas avec quoi?
Ben, c'est sûr que, selon moi, il n'y a aucun scénario qui me surprendrait dans cette série-là. Je pense que les deux clubs méritent leur place en finale de la Coupe et peuvent l'emporter. Mais à la fin de la journée, Caroline ont toujours bien juste perdu une game là, depuis le début des séries. Fait que je vais me rattacher à ça, le fait que justement, ils ont peut-être un petit peu plus faim que les Golden Knights. Il y en a beaucoup qui sont de l'équipe championne d'il y a quelques années. Donc, je vais y aller. Caroline en 6 de mon côté.
C'est une bonne prédiction, Mathias.
Vegas en 6.
Vegas en 6 également.
Je pense que ça va être une série difficile pour Frédéric Anderson, notamment.
Un auditeur qui nous écrit, faudrait que Marner, que la coupe, appelle direct Mathieu. Hey, salut Austin, check! Je l'ai au bout des bras! C'est ce soir 20h, c'est sur les ondes de TVA Sport. Alex Laramé, on se reparle demain.
Yes, à demain.
Salut mon chum, Alex Laramé, chroniqueur sportif et journaliste au 99.5 Montréal. Demain dans l'émission, évidemment, on va voir le caucus avec Antonine Iaccarini. Moi aussi, manquez pas vers 13h05. C'est le retour d'un ancien chroniqueur, Farnel Morisset, maintenant candidat dans Taschereau pour le Parti libéral du Québec, qui va venir nous parler de l'annonce en transport en commun, va venir nous parler des pistes de solutions pour Saint-Roch, justement, en itinérance. Donc, ça va être très intéressant de recevoir l'ami Farnel. Faut-tu être fâché après Farnel, vu qu'il est politicien? Non,
les je pense qu'on peut se permettre de ne pas être fâché.
Exactement. On va lui poser les bonnes questions.
Il n'est pas encore politicien.
On va lui poser quand même des questions un peu plus crunchy sur le français et le Parti libéral du Québec. Manquez pas ça aux alentours de 13h05 demain. Le retour de Denis s'en vient. Bon après-midi, guys.
Allez, bonne journée.